les fils de Dieu manifestés. Nous courbons nos têtes ce soir en tant qu'Église, en tant que groupe de croyants appelés pour enseigner ta parole, occupant notre place dans le corps auquel nous appartenons et dans lequel nous pouvons travailler ensemble parfaitement en tant que membres du corps de Christ. Et maintenant, on nous a demandé d'apporter ce cas immédiatement à Dieu. Chaque père parmi nous pense, qu'en serait-il si c'était notre petite fille? Combien nos cœurs brûleraient et seraient touchés? Et nous demanderions aux églises de prier immédiatement. Le cœur d'un père brûle et souffre. Seigneur, puisse cette grande personne du Saint-Esprit entrer maintenant dans le cœur de ce père. Enlève toute ombre de doute et toute douleur et fais-lui savoir que tu es Dieu et qu'aucune maladie ne peut résister en ta présence. Lorsque ta commission divine a été exécutée par ton Église et par ton peuple. Et comme nous avons prié tout au long de cette semaine, depuis dimanche passé, j'ai songé au moyen qu'à la prière. Nous n'avons pas grand-chose comme arme aux yeux du monde, mais cette petite fronde est mortelle. Quand elle est tenue par les doigts de la foi. Ô Seigneur, puisse notre prière frapper cette mort qui se trouve sur cet enfant. Qu'elle soit brisée et que les ténèbres soient dissipées du chevet de ce nourrisson, de ce bébé, de cet enfant ou de cette petite fille. Puisse la grande lumière de la présence de Dieu briller sur lui. Et puisse-t-il sortir de cet hôpital guéri. Ô Dieu, nous savons que de l'autre côté de la rivière, nos bien-aimés attendent et que c'est glorieux. Mais nous aimons nos petits-enfants et nous te prions, Seigneur, pour ta gloire, d'épargner la vie de cet enfant. Nous, en tant que ton Église, nous chassons cette mort et disons, arrête-toi là-bas, tu ne peux pas prendre cet enfant. Parce que nous réclamons sa vie pour le royaume de Dieu. Accorde ces choses, Seigneur, comme nous te les rapportons et te les demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Croyons-nous?
Amen.
Je ne sais pas ce que je ferais si je n'étais pas un chrétien. Je ne voudrais pas rester plus longtemps. Il n'y a pas d'autre raison de vivre si ce n'est de faire tout pour que d'autres soient sauvés. C'est le mieux que je sache. Maintenant, ce soir, nous voulons reprendre comme base les points de notre leçon précédente et j'essaierai de lire parce que le chapitre entier, si possible ce soir, afin que dimanche, je puisse peut-être utiliser le matin et le soir, si c'est en ordre, pour essayer d'arriver au point que je désire que l'Église voie. Oh, c'est glorieux de trouver votre position, et personne ne peut faire quelque chose à moins qu'il ne sache parfaitement ce qu'il fait. Que feriez-vous si vous étiez sur le point de subir une opération, et qu'il y ait là un jeune docteur qui vienne de terminer ses études et qui n'ait jamais fait d'opération auparavant. Pourtant, il est jeune et bel homme, ses cheveux sont bien peignés, il est très bien habillé, il est élégant, et tout le reste, elle dit, j'ai aiguisé les bistouris et j'ai stérilisé tous les instruments. Cela vous ferait une drôle d'impression. Je donnerais plutôt la préférence un vieux docteur qui a accompli cette opération de nombreuses fois auparavant, avant d'accepter un seul coup de bistouri. Je ne choisirai pas quelqu'un qui vient de sortir de l'école. Je voudrais quelqu'un qui a de l'expérience. est le plus expérimenté que je connaisse et que l'on puisse invoquer ce soir, c'est le Saint-Esprit.
Amen.
Il est le grand médecin et le grand enseignant. Je prendrai comme base de mon message ce soir le sermon de dimanche dans lequel nous avons vu qu'ils rejetèrent Samuel avec la parole du Seigneur pour accepter Saül, le fils de Kis. Ils rejetèrent Samuel qui représentait le Saint-Esprit parce qu'il parlait seulement quand l'Esprit le conduisait à le faire. Et quand il attira leur attention sur cela, il dit, « Souvenez-vous que je ne vous ai jamais rien dit au nom du Seigneur que le Seigneur n'ait accompli. De plus, je n'ai pas marché ni ne me suis mal conduit devant vous. Et personne ne peut m'accuser de péché. Comme Jésus le disait, qui peut m'accuser de péché, voyez-vous ? » Et il dit encore, « Je ne suis pas venu vers vous pour vous réclamer de l'argent. Je ne vous ai rien pris, mais tout ce que je vous ai apporté de la bouche de l'Éternel a été pour votre bien. » Et tout le peuple en rendit témoignage, « C'est vrai, tout cela est vrai, mais néanmoins nous voulons avoir un roi. Nous voulons être comme le reste du monde. » Ce soir, l'Écriture montre que le livre des Éphésiens est dans le Nouveau Testament le livre de Josué. Il sépare et place dans l'ordre le vainqueur. Maintenant, pendant quelques minutes, nous allons simplement établir une base à notre sujet de ce soir, avant de commencer à lire au verset 3. Nous avons vu dimanche soir que Dieu, dans l'Ancien Testament, avait promis à Israël un pays de repos, parce qu'ils étaient devenus des pèlerins et des voyageurs, et qu'ils étaient dans un pays qui ne leur appartenait pas. Dieu avait promis au travers d'Abraham qu'il séjournerait, que sa semence séjournerait pendant 400 ans au milieu d'un peuple étranger, et qu'ils seraient opprimés, mais que par une main puissante, il les en ferait sortir, et les amènerait dans un bon pays, où coule le lait et le miel. Et quand le temps de la promesse approcha, Dieu suscita quelqu'un pour les amener vers ce pays.
Amen.
Combien dans la classe ce soir savent qui c'était? Moïse. Notez qu'il était un type très réel de celui qui nous fut donné pour nous conduire vers la terre promise. Christ. Maintenant, nous avons une promesse, parce que notre promesse est un repos spirituel, alors que la leur était un repos physique. Ainsi, ils approchaient d'un pays duquel ils pouvaient dire, « Ceci est notre pays. Nous ne sommes plus des voyageurs. Nous voilà établis, ceci est notre pays, et nous avons du repos. Nous planterons notre blé, notre vigne, et nous en mangerons le fruit. Ensuite, quand nous ne serons plus, nous le laisserons à nos enfants. Oh, nous pourrions entrer dans ce pays, les lois de l'héritage, comme nous pouvons le lire de Naomi, Ruth et Boaz, en reprenant ces points, nous montrent qu'un frère en Israël, que tout ce qu'il a perdu doit être racheté par un parent. Oh, comme c'est beau! Cela prendrait des semaines et des semaines et des semaines et des semaines pour en parler, sans jamais quitter ce chapitre. Nous pourrions relier la Bible entière à ce point-là, à ce chapitre. Oh, j'aime étudier cela. Nous avions l'habitude de prendre un livre et d'y rester pendant une année et demie, sans jamais le quitter. Ne restant qu'avec cela. C'était une chose sacrée que l'héritage, de voir qu'un héritage dans le pays, personne d'autre, si ce n'est un proche parent, ne pouvait le racheter. Maintenant, laissez-moi parler d'un point ici que j'ai traité l'autre soir pour vous, les mères. Combien parmi vous avez prié pour vos bien-aimés qui sont perdus? Très bien. Vous y êtes de nouveau, voyez-vous, votre héritage. Paul dit aux Romains, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta maison.
Amen.
Si vous avez une foi suffisante pour croire pour vous-même, que vous-même serez sauvé, et il y a assez de foi, peu importe combien ça ce garçon, cette fille est entêtée, il sera de toute façon sauvé. Dieu, d'une façon ou d'une autre, même s'il doit les laisser coucher à l'hôpital, à la mort, il les sauvera. Dieu l'a promis, l'héritage. Oh, elles seront là-bas, dit Esaïe, et tous leurs enfants seront avec eux. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Oh, il y a un point où j'espère pouvoir arriver avec vous ce soir. Cela brûle dans mon cœur. Cela revient à cette chose. Mais maintenant, allons de l'avant. Avez-vous remarqué que Moïse, ce grand homme qui accomplissait des miracles après avoir conduit Israël à travers des pays, après l'avoir ramené jusqu'à la terre promise, cela ne les plaça pas dans leur héritage. Il ne leur donna pas leur héritage. Il les conduisit jusqu'au pays. Mais Josué fut celui qui divisa le pays, attribuant une part à chacun. Est-ce vrai? Et Christ conduisit l'Église jusqu'à l'endroit où sa possession lui fut donnée. Il n'y avait que le Jourdain à traverser. Mais le Saint-Esprit est celui qui met l'Église dans l'ordre. Le Josué d'aujourd'hui met l'Église dans l'ordre et donne à chacun des dons, des places, des positions. Et il est la voix de Dieu qui parle à l'homme intérieur que Christ a sauvé, le Saint-Esprit. Avez-vous compris jusque-là? Maintenant, nous allons dans le livre des Éphésiens. De la même manière, il place l'Église dans sa position. De même que Josué les plaça dans le pays naturel, maintenant le Saint-Esprit place l'Église dans le pays dans lequel, dans la position qui est la sienne, son héritage. Maintenant, premièrement, pour commencer, il adresse sa lettre. Paul, comme nous allons le découvrir dans un moment, avait reçu la révélation de ce mystère, pas dans un séminaire, ni par aucun théologien, mais c'est une révélation divine du Saint-Esprit que Dieu donna à Paul. Il savait que le mystère de Dieu, qui avait été caché depuis la fondation du monde, lui avait été révélé par le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit plaçait chacun dans l'ordre, plaçait l'Église dans sa position. La première chose que Paul commence à dire ici aux gens, c'est de réunir. Maintenant, souvenez-vous que ceci est pour l'Église, et non pour celui du dehors. C'est un mystère et une énigme pour celui-ci, qu'il ne pourra jamais comprendre. Cela passe par-dessus sa tête. Il ne sait rien du tout à ce sujet. Mais pour l'Église, c'est du miel dans le rocher. C'est une joie ineffable. C'est l'assurance bénie. C'est l'encre de l'âme. C'est notre espoir et appui. C'est le rocher des âges. Oh, c'est tout ce qui est bon. Car les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Toutefois, l'homme, en dehors de Canaan, ne sait rien à ce sujet. Il continue à errer. Je ne dis pas qu'il n'est pas un homme bon, je ne dis pas cela. Je ne dis pas que l'homme, qui est même en Égypte, n'est pas un homme bon. Mais jusqu'à ce qu'il soit entré dans cette possession, et la possession qui, la promesse qui fut donnée à l'Église, n'est pas un pays naturel, mais un pays spirituel. Car nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Alors, dans ce sacerdoce royal, cette nation sainte, un peuple acquis, appelé, élu, choisi, mis à part, tout ce qui est du monde est mort à l'extérieur. Et nous sommes conduits par l'Esprit. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Non par des hommes, mais par l'Esprit. Tout cela dans l'amour. Le tout s'y trouve enveloppé. Maintenant, on a souvent essayé d'enseigner ceci. Sans doute, de grands théologiens ont traité de cela plus à fond que moi. Mais la chose que je désire essayer de vous faire comprendre est celle-ci. Un homme qui est en Christ, avec le Saint-Esprit, peut supporter un homme qui est dans l'erreur. Longanime, modéré, patient. Il est doux, humble, fidèle, rempli de l'Esprit, jamais négatif, toujours positif. C'est une personne différente. Pas simplement un homme qui dise, une fois nous l'avons eu. Si nous avons crié, nous l'avons eu, nous méthodistes. Oh, quand nous avons crié, nous étions dans le pays. C'est bien. C'est en ordre. Je crois aussi cela. Ensuite, les pentecôtistes viennent en parlant en langue. Ils l'avaient. Tous ceux qui parlaient en langue l'avaient. Je crois aussi cela. Mais pourtant, nous découvrons que beaucoup ne l'avaient pas encore. Voyez-vous? Maintenant, nous arrivons à ce grand mystère qui a été caché depuis la fondation du monde et qui est maintenant révélé en ces derniers jours au Fils de Dieu.
Amen.
Croyez-vous que ce soit la vérité?
Amen.
Que les fils de Dieu sont manifestés?
Amen.
Avant d'aller plus loin, regardons un instant de Romains au chapitre 8. Et laissez-moi vous dire ceci. Voyons si cela répond à la chose dont je vous parle ici. Maintenant, nous allons prendre Romains 8, Romains chapitre 8 et le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation ou manifestation des fils de Dieu.
Amen.
Avec un ardent désir, la création attend la manifestation.
Amen.
Voyez-vous, la manifestation. Qu'est-ce que la manifestation? Faire connaître. Le monde entier, là-bas les Mahométans l'attendent. Partout ils l'attendent. Où sont ces gens? Nous avons eu un vent violent et impétueux. Nous avons eu du tonnerre et des éclairs. Nous avons eu de l'huile et du sang. Nous avons eu toutes sortes de choses. Mais nous n'avons pas entendu ce murmure doux et léger qui attira l'attention de ce prophète qui s'enveloppa de son manteau, sortit et dit, « Me voici, Seigneur. » Voyez-vous, maintenant la création tout entière soupire et attend la manifestation des fils de Dieu.
Amen.
Premièrement, Paul va placer l'Église exactement là où elle doit être. Maintenant, pour avoir un fondement, lisons de nouveau. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints, ce sont ceux qui sont sanctifiés, qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ. Maintenant, afin que vous ne l'oubliez pas, comment entrons-nous en Christ? Nous joignons-nous à l'Église pour entrer en Christ? Faisons-nous une profession de foi pour entrer en Christ? Devons-nous être immergés dans l'eau pour entrer en Christ? Comment entrons-nous en Christ? 1 Corinthiens, chapitre 12, dans un seul esprit, un seul E-S-P-R-I-T, ce qu'est le Saint-Esprit, nous sommes tous baptisés dans la terre promise. Dans cette terre promise, tout nous appartient. Le voyez-vous, frère Collins? Voyez-vous, tout dans la terre promise. Quand Israël traversa ce Jourdain pour entrer dans la terre promise, il écrasa tout sur son passage. Maintenant, souvenez-vous que dans cette terre promise, cela ne veut pas dire que vous êtes immunisé contre la maladie. Cela ne veut pas dire que vous êtes immunisé contre les difficultés, mais cela signifie ceci, oh, laissez ceci entrer profondément. Cela veut dire que cela vous appartient. Lève-toi et prends-le. Voyez-vous, et souvenez-vous que la seule façon qu'Israël, pour qu'Israël, de perdre un homme, c'était lorsque le péché entrait dans le camp. C'est la seule façon pour nous de perdre une victoire, c'est que le péché entre dans le camp. Quelque chose qui ne va pas quelque part. Lorsqu'un camp vola ce lingot et ce manteau de Chinéar, le péché était dans le camp et la bataille tourna mal. Si vous me donnez cette église ce soir, ce groupe étant parfaitement lié à la promesse de Dieu par le Saint-Esprit, marchant dans l'Esprit, je défie n'importe quelle maladie ou n'importe quelle affliction ou tout ce qu'il peut y avoir, tous les Joy Lewis qu'il y a dans le pays avec toute leur infidélité et tous les croyants d'amener une maladie quelconque ou affliction dans cette porte, ils sortiront d'ici parfaitement guéris. Oui, monsieur, Dieu a donné la promesse. Seul le péché de l'incrédulité peut l'en tenir éloigné. Nous allons arriver dans un moment à ce qu'est ce petit péché. Maintenant, aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Quand nous sommes en Christ, nous avons des bénédictions spirituelles. En dehors de Christ, nous avons des sensations. En Christ, nous avons des bénédictions authentique. Pas de comédie, pas de simulation, mais aussi longtemps que vous essayerez de dire que vous êtes dans la terre promise et que vous n'y êtes pas, vos péchés vous démasqueront et tout à coup vous vous retrouverez avec l'air sombre, comme on dirait dans le monde, encrassé. Vous découvrirez que vous n'avez pas ce dont vous parlez. Mais quand vous êtes en Jésus-Christ, il vous a promis une paix céleste, des bénédictions célestes, un esprit céleste. Tout vous appartient. Vous êtes dans la terre promise et en pleine possession de tout. Amen. Comme c'est beau. Oh, étudions cela. Dieu nous a élus, maintenant, voici ce à quoi l'Église s'achoppe si terriblement. Dieu nous a élus en lui, en qui? En Christ. Nous voyons maintenant dans la Genèse et dans l'Apocalypse, Apocalypse 17, 8, qu'il nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Maintenant, la parole, laissez-moi lire le verset suivant. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés. Maintenant, je veux m'arrêter à ce mot, prédestiné. Prédestiné ne veut pas dire, je vais choisir frère Neville, et je ne choisirai pas frère Billaire. Ce n'est pas cela. C'est la préscience de Dieu qui a fait qu'il savait qui serait juste et qui ne le serait pas. Ainsi, par préscience, Dieu, sachant ce qu'il allait faire, prédestina, par sa préscience, toutes choses pour les faire concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, afin qu'ils puissent, dans l'âge à venir, réunir toutes choses en Jésus-Christ. Laissez-moi vous donner une petite illustration à ce sujet. C'est bien. Nous retournons, je crois que j'ai déjà parlé un peu là-dessus l'autre soir, où je l'ai mentionné dans Genèse 1, 26. Quand Dieu appela son nom Seigneur Dieu, c'est dans le mode El, Eli, Elohim, ce qui veut dire celui qui existe par lui-même. Rien d'autre n'existait si ce n'est lui. Il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de monde, il n'y avait rien d'autre, il était Dieu et Dieu seul. El, Eli, Elohim. Ainsi, il fit cela. À l'intérieur se trouvaient des attributs. Ce qui veut dire qu'il était un. À l'intérieur de ce grand El, Eli, Elohim, se trouvait un attribut ou un. Savez-vous ce qu'est un attribut? Ou, laissez-moi le dire ainsi, c'est une nature. De cette manière, les petits enfants le comprendront. Et je suis l'un d'eux qui doit le comprendre de cette manière. À l'intérieur de lui se trouvait la nature de Père. Mais, existant par lui-même, il n'y avait rien pour qu'il en soit le Père. Et à l'intérieur de cela, il y avait quelque chose d'autre montrant qu'il était Dieu. Or, un Dieu est un objet d'adoration. Mais il existait par lui-même, El, Eli, Elohim. Il n'y avait rien pour l'adorer. À l'intérieur de cela, il était un sauveur. Et il n'y avait rien de perdu qu'il fasse sauver. Voyez-vous? À l'intérieur de cela, il était un guérisseur. Mais il n'y avait rien de malade qu'il faille guérir. Il n'y avait rien qui puisse être malade. Maintenant, voyez-vous l'image? Ainsi, ses attributs, sa nature, ont produit ce qui existe aujourd'hui. Certaines personnes disent, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas arrêté au commencement? C'est une brute cruelle, a dit Joe Lewis, celui qui a condamné Jacob, voyez-vous. Il dit, ce n'est qu'une brute cruelle, Dieu n'existe pas. S'il existait, il serait, oh, il l'appela par toutes sortes de noms, voyez-vous. Mais c'est simplement parce qu'il a peut-être beaucoup de connaissances ici en haut, mais il n'a rien ici en bas. Et c'est là que cela se trouve. Voyez-vous, cette parole le dit ici, mais cela leur est caché. Ces mystères ont été cachés. Souvenez-vous que la Bible dit que depuis la fondation du monde, la création attend la manifestation des fils de Dieu à l'Église. Oh, comprenez-vous? Je vais maintenant m'arrêter avec mon histoire et je pense que je vais passer à ma prochaine pensée pour traiter de ceci. Maintenant, souvenez-vous que dans l'âge de Moïse, dans l'âge des prophètes, dans tous les âges, ils ont attendu jusqu'à ces derniers jours pour que ces choses soient manifestées selon les Écritures. C'est vrai. Pour que cela soit révélé au Fils de Dieu. Pourquoi? Depuis ceux qui sont perdus jusqu'au, comme la pyramide, comme je l'ai dit, elle est construite toujours plus minutieusement. Comme je l'ai fait souvent remarquer, Dieu a fait 3 Bibles. La première, il l'a mise dans les cieux, le zodiaque. Avez-vous déjà vu le zodiaque? Quelle est la première figure dans le zodiaque? La Vierge. Quelle est la dernière figure dans le zodiaque? Léo, le lion. Il est venu la première fois au travers de la Vierge. Il vient la seconde fois comme le lion de la tribu de Juda.
Amen.
Voyez-vous? Il fut la suivante dans la pyramide, du temps d'Enoch, lorsqu'il la construisit. Ils la mesurèrent, je ne comprends pas cela, mais au travers des guerres où ils furent asservis, humiliés, pendant un certain temps, ils mesurèrent la distance qui correspond à la durée des guerres. Savez-vous ce qu'ils ont mesuré pour l'heure que nous vivons? Ce qui traverse la chambre du roi. Et comme cette pyramide montait, nous ne pourrions pas la construire avec tout ce que nous avons aujourd'hui. Nous ne pourrions pas le faire. Elle est construite comme ceci, jusqu'à un point. Mais on n'a jamais trouvé la pierre formant le fait. Ils n'ont jamais mis de chapiteau au sommet de la pyramide. Je ne sais pas si vous le savez ou non, mais la grande pyramide d'Égypte n'a jamais eu de pierre à son sommet. Pourquoi? La pierre faîtière fut rejetée. Christ, la pierre faîtière, voyez-vous, fut rejetée. Mais comme nous montons de l'âge luthérien à l'âge baptiste, l'âge méthodiste, l'âge pentecôtiste, nous arrivons maintenant à la pierre de fête. Voyez-vous, attendant et soupirant après le moment où cette pierre fêtière se posera et où le bâtiment sera achevé. Avez-vous lu dans les Écritures que la pierre que je rejetais? Bien sûr, nous réalisons qu'il était parlé du temps de Salomon, mais la pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Je dis seulement ceci pour faire une image à votre attention. Maintenant, selon la Bible, nous vivons dans le dernier âge, le sommet de la pyramide, les poissons qui se croisent de l'âge du cancer dans le zodiaque. Dans le temps de la venue de Léo, le lion, dans la pierre fêtière, et dans les jours de la manifestation des fils de Dieu. Voyez-vous où nous en sommes? Nous sommes vraiment à la fin des temps. Combien ont lu dans le journal cette semaine ce que Khrouchtchev et les autres ont dit? Oh, ils sont prêts. Nous aussi. Amen. Nous sommes prêts, c'est en ordre. Oh, quel privilège, quel jour. Si les chrétiens pouvaient seulement réaliser le jour dans lequel nous vivons. Oh, que pensez-vous que l'auteur de ce livre a vu lorsqu'il déclare que cela serait manifesté dans les derniers jours? Il est écrit que la création soupire en attendant que les fils de Dieu apparaissent dans la puissance du Saint-Esprit à la fin de cet âge pour révéler et apporter les choses tenues secrètes depuis la fondation du monde. Maintenant, retournons à la fondation du monde pour obtenir une révélation et voir si nous avons raison ou non. J'espère que je ne me rends pas sacrilège en appelant Dieu Papa. Mais je désire le dire de cette manière afin que vous compreniez. Papa. Papa voulait des enfants. Ainsi que fit-il? Il dit qu'il y ait des anges. Et ils vinrent autour de lui. Oh, c'est bien. Ils l'adorèrent. Alors il était Dieu, l'attribut. Souvenez-vous qu'il était El, E-L, Eli, Elohim. Il existait par lui-même. Il n'y avait rien en dehors de lui. La première chose qui apparut fut des anges. Les anges ne pouvaient rien faire d'autre de plus qu'adorer. Ils ne pouvaient être ni perdus, ni malades. C'étaient des êtres immortels. Ainsi, ils ne pouvaient pas montrer sa puissance de guérison. Ils ne pouvaient pas montrer son salut. Ainsi, après cela, il dit, nous ferons quelque chose de tangible. Ainsi, il créa une terre, et quand il l'eut créée, il fit toutes les créatures de la terre. Et ensuite, il créa l'homme. Il créa tout ce qui va sur la terre, en commençant avec une méduse, une forme de poisson qui flotte dans l'eau. Puis de là, ce fut une grenouille, qui est le type de vie le plus bas que nous puissions trouver, prétendent-ils. Le type le plus élevé étant les êtres humains, de la grenouille, cela alla au lézard, du lézard au suivant, et ainsi de suite. Chaque fois que le Saint-Esprit commençait à souffler, la vie venait à nouveau. Une vie plus grande, et bientôt, quelque chose vint à l'image de Dieu. C'était un homme. Rien n'a jamais été créé de plus élevé, il ne sera plus jamais créé d'aussi grand qu'un homme. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Voyez-vous? Ainsi, l'homme, quand Dieu créa le premier homme, quand il fit ses êtres angéliques, quand il fit l'homme, il les créa mâle et femelle, à la fois dans la même unité. Il était à la fois homme et femme, féminin et masculin. Quand il fit Adam et lui donna une chair, souvenez-vous que dans Genèse 1, il créa l'homme et la femme, et que dans Genèse 2, il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol, d'homme en chair. Aucun homme ne pouvait saisir quelque chose ou cultiver le sol, mais pourtant, il y avait un homme à son image, et Dieu est esprit. N'est-ce pas, voyez-vous, il créa le premier homme mâle et femelle. Maintenant, quand il créa le premier homme, souvenez-vous qu'il avait cela dans sa pensée. Dimanche soir, j'ai parlé là-dessus. Une parole est une pensée exprimée. Dieu pensa à la manière d'être Dieu. d'être adoré, d'être un guérisseur, d'être un sauveur, et aussitôt qu'il prononçait la parole, c'était en ordre pour toujours. Oh, si ces fils de Dieu pouvaient maintenant se saisir de cette parole de cette façon. Quand Dieu prononce une parole, c'est en ordre, absolument. Il peut avoir attendu, la chronologie dit que les archéologistes et les autres prétendent que le monde existe peut-être depuis des millions, des millions et des millions d'années. Je ne sais pas, il se peut qu'il y ait eu des trillions d'années. Je n'en connais pas la durée. Dieu n'existe pas dans le temps. Il n'a pas une minute de moins que lorsqu'il la prononça.
Amen.
Il est toujours Dieu. Il n'y a pas de temps avec lui. Je ne le savais pas jusqu'à l'autre soir, l'autre matin plutôt. Éternel, pas d'hier, pas de demain, tout est maintenant. Avez-vous remarqué le mot « je suis » pas « j'étais » ou « je serai » C'est éternel, je suis. Voyez-vous, je suis. Toujours. Mais il voulait mettre des choses dans le temps. Il devait faire quelque chose pour adorer. C'est pourquoi ses attributs produisirent ceci. Alors il fit l'homme. Mais cet homme paraissait solitaire. Ainsi, pour montrer sa grande pensée, ce qu'il avait comme image de Christ et de l'Église, il ne prit pas un morceau différent d'argile pour faire une femme, mais il prit une côte du côté d'Adam. Et il prit de l'esprit d'Adam ce qui était féminin et le mit dans cette côte. Quand vous voyez un homme qui agit comme un efféminé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous voyez une femme qui veut agir comme un homme, il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont deux esprits tout à fait différents. Mais ensemble, ils forment une unité. Ces deux sont un. Ainsi, il créa la femme et l'homme, et ils ne devaient jamais vieillir, jamais mourir, ne jamais devenir grisonnant, jamais. Ils mangeaient, buvaient, dormaient comme nous le faisons, mais ils ne savaient pas ce qu'était le péché. Maintenant, je vais laisser de côté ceci pour une autre leçon, cette fois sur la semence du serpent, dont on m'a demandé de reparler. Mais faites-moi connaître quelqu'un qui pourrait me montrer quelque chose de différent. C'est ce que je désire savoir, voyez-vous. Mais alors, après tout ceci, lorsque le péché entre, qu'arrive-t-il? Tout là-bas, en haut, à 1 100 000 000 de kilomètres, il y a un espace grand comme cela, et c'est le parfait amour agapao.
Amen.
Chaque fois que vous faites un pas dans cette direction, cela se resserre de 2 cm. Et vous savez combien petit cela sera, d'ici le moment où cela arrivera à la Terre. C'est une ombre de l'ombre de l'ombre. C'est ce que vous avez. C'est ce que j'ai. Une ombre d'ombre d'ombre. De l'amour gagagapao. Il y a quelque chose en vous. Il y a quelque chose dans chaque femme ici qui a plus de 20 ans. Il y a quelque chose dans chaque homme ici qui a plus de 20 ans, qui rêve de rester ce qu'il est. Vous avez seulement 5 ans, c'est de 15 à 20 ans. Après 20 ans, vous commencez à mourir. Mais depuis 15 ans, vous êtes un adolescent. Jusque-là, vous êtes un enfant. Ensuite, vous devenez mûr jusqu'à 20 ans, et après 20 ans, oh, vous dites, je suis toujours aussi bien. Vous dites cela, mais ce n'est pas le cas. Vous mourrez et vous vous consumez. Peu importe ce que vous faites, Dieu vous a fait croître jusqu'à cet âge. Ensuite, vous commencez à mourir. Maintenant, que va-t-il arriver? Vous commencez à mourir. Mais en vous, il y a quelque chose qui dit, j'aimerais avoir de nouveau 18 ans. Maintenant, je veux vous demander quelque chose. Qu'arriverait-il si vous étiez né il y a 500 ans? Et que vous ayez gardé l'âge de 18 ans jusqu'à aujourd'hui, vous seriez une antiquité. Avec vos idées d'il y a 500 ans, avant que les pèlerins ne soient venus ici, alors que vous étiez une jeune fille avec cette sorte d'idée, vous feriez mieux d'aller de l'avant, de vieillir, de vivre 500 ans. Voyez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous dites, eh bien, maintenant, je me sens bien, frère Branham. Oh, j'ai 18 ans. J'ai 16 ans. Je me sens bien. Mon chéri, laisse-moi te dire quelque chose. Comment sais-tu que ta mère est en vie à cette minute, si elle n'est pas dans cette église? Comment sais-tu que ton ami n'a pas été tué il y a quelques minutes? Ou ton amie? Comment sais-tu que demain matin, tu ne seras pas un cadavre dans ta maison? Comment sais-tu que tu sortiras de l'église vivant ce soir? C'est une telle incertitude. Il n'y a rien de certain. Que vous ayez 15, 12, 19, 75 ou 90 ans, tout est incertain. Incertain. Vous ne savez pas où vous vous trouvez. Mais pourtant, vous aspirez à retourner à l'âge de 15 ou 18 ans. Qu'est-ce qui vous fait faire cela? Si vous retournez à l'âge de 18 ans et que vous restiez là et ne soyez jamais malade et ne soyez, vous devriez avoir d'autres gens avec vous parce que vous vous dépasseriez cela. Voyez-vous, les gens continueraient dans d'autres âges et vous seriez une antiquité pour eux. Votre état serait pire que si vous aviez vieilli avec eux. Mais il y a quelque chose qui vous appelle à être là. Il y a ce petit agapao, cette petite ombre qui fait de vous quelque chose en dessus d'ici. L'autre soir ou l'autre matin à 7 heures, quand le Saint-Esprit, par sa bonté et sa grâce, me prit hors de ce corps, je crois, oui ou non, je ne me prononcerai pas, et que j'entrai dans ce pays, et que je vis ces gens qui étaient tous jeunes, et que je vis les personnes les plus jolies que j'ai jamais vues de ma vie. Il me dit, certains d'entre eux, avec 90 ans, se sont convertis. Ce n'est pas étonnant qu'il crie, « Mon frère, mon frère, ceci est un corps céleste. » Car lorsque nous mourons, nous ne devenons pas un mythe, nous devenons un corps. Si nous mourons tous, si une bombe atomique nous faisait sauter à 7 minutes, dans les 5 minutes qui suivent, nous nous serrerions la main les uns des autres, et nous nous donnerions l'accolade les uns aux autres, et nous crierions et glorifierions Dieu. Oui, monsieur. Et frères et sœurs Spencer qui sont ici, je pense, l'un des couples les plus âgés aurait 18 à 20 ans. Frère Neville sera un jeune garçon, je serai un jeune garçon, et nous tous, nous, c'est exactement la vérité. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui nous attend. Quand un petit bébé sort de sa mère dans une naissance naturelle, son petit corps se tortille, ses jambes pédalent, etc. Vous, jeunes femmes, excusez cette expression, mais quand il fait cela, ses petits muscles se contractent. Et quand il vient au monde, premièrement, il prend une respiration, et un corps de nature spirituelle entre dans ce bébé à ce moment-là. Si vous le laissez, il posera sa petite tête sur le sein de sa mère et commencera à téter. S'il ne faisait pas cela, le lait ne viendrait pas. Avez-vous déjà observé un veau qui vient de naître? Aussitôt qu'il a assez de force pour se tenir sur ses jambes, qu'il lui dit, il va directement vers sa mère, cherche l'endroit avec son museau et commence à téter. Oh oui! Car quand ce corps terrestre apparaît ici, il y a un corps spirituel prêt pour lui. Et aussitôt que ce... Oh! Alléluia! Quand cette tente que nous habitons sur la terre est détruite, il y en a une qui attend là-bas. Aussitôt que nous sortons de celle-ci, nous entrons dans celle-là. Une tente qui ne réclame pas d'eau froide à boire. Vous n'avez pas besoin de boire de l'eau. Une qui ne mange pas. Elles ne sont pas faites de la poussière de la terre. Mais elles sont toutes aussi réelles. Il peut sentir, serrer la main, aimer et tout est parfait. Ce corps attend là-bas. Il est une partie de nous. Il y en a trois. Vous commencez votre vie éternelle ici même à l'autel. C'est ici que vous commencez l'éternité. Oh! Vous commencez la vie éternelle ici même. Quand vous êtes né de nouveau, fils de Dieu. Et alors que vous mourrez, vous commencez, quand la mort vous frappe dans ce corps, que le cœur arrête de battre, que les roues mortelles s'immobilisent, cette petite ombre, qui était une ombre d'une ombre, en une seconde, devient une ombre de l'ombre. Ensuite, elle devient l'ombre, ensuite elle devient un ruisselet, puis un ruisseau, puis une rivière, pour devenir un océan. Et après un certain temps, vous vous trouvez dans la présence de vos bien-aimés qui sont là-bas, revêtus d'un corps céleste, où vous vous reconnaissez les uns les autres, et vous vous aimez les uns les autres. Vous êtes redevenu un jeune homme et une jeune fille. Exactement. Il attend là-bas jusqu'à la venue du Seigneur Jésus et un jour, le corps glorifié de son... Maintenant, souvenez-vous que c'est un corps céleste, pas un corps glorifié, un corps céleste. Et un jour, ce corps céleste quittera le ciel avec Jésus. Car je vous dis ceci, de Thessaloniciens chapitre 4 ou 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'un ou l'autre, je vous dis, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, croyons aussi que Dieu ramènera Christ, ramènera par Christ, et avec lui ceux qui dorment. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après les commandements du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car la trompette du Seigneur sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ces corps célestes descendront et revêtiront des corps terrestres glorifiés. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le festin de noces durera 3 ans et demi, alors l'Antichrist a fini de régner, le monde entier détruit, les Juifs sont appelés. Joseph se fait connaître aux gentils ou aux Juifs. Souvenez-vous que lorsque Joseph se fit connaître à ses frères, il n'y avait pas un seul gentil présent. Quand il envoya, vous connaissez l'histoire, Joseph, un type parfait de Christ sous tous les aspects, et quand Joseph envoya chercher ses frères et qu'ils descendirent, il regarda et vit le petit Benjamin. Il les vit là, et ensuite ils dirent devant lui, « Nous n'aurions pas dû tuer notre frère Joseph. » Quand les Juifs réaliseront qu'ils ont commis une faute, quand Christ fera connaître à eux, et Joseph était si ému qu'il fut sur le point de pleurer. Ainsi il renvoya sa femme, ses enfants, tous les gardes, tous les autres, et il les envoya dans le palais. C'est exact. Et là, dans la seule présence des Juifs, il dit, « Je suis Joseph, votre frère. Je suis votre frère. » Et alors ils tombèrent, commencèrent à trembler et dire, « Maintenant nous savons que nous allons subir le châtiment que nous méritons, parce que nous avons tué notre frère. Nous avons dit que nous avons tué notre frère, et maintenant il est ce grand roi. » Il dit, « C'est pour vous sauver la vie que Dieu a fait cela. C'est exactement la raison pour laquelle Dieu fit cela. C'est pour nous sauver, nous, gentils. Mais les gentils étaient dans le palace. Alléluia ! Étant rejeté par ses frères, Joseph prit une épouse, et cette épouse était une gentile, pas une juive. Très bien. Où en arrivons-nous maintenant ? Après que nous ayons revêtu ce corps glorieux, dans le grand âge à venir, quand ce corps glorifié, ce corps céleste, est devenu encore glorifié. Maintenant, comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, je peux m'avancer et dire, frère Neville, laissez-moi vous donner une petite illustration. Je dirais, frère Humes, montons vers papa ce matin. Il est Dieu. Nous le connaissons maintenant. Il est un sauveur, il est un guérisseur. Il n'y a jamais eu quelque chose comme la création du péché. Cela n'est pas descendu, n'est-ce pas? Le péché n'est pas une création. Non, monsieur. Le péché est une perversion. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Le péché est la justice pervertie. Qu'est-ce qu'un adultère? La justice pervertie. Qu'est-ce qu'un mensonge? La vérité mal présentée. Certainement. Qu'est-ce qu'un juron? Ce sont les bénédictions de Dieu changées en un juron vers Dieu au lieu d'une bénédiction. Le péché n'est pas une création, le péché est une perversion. Ainsi, Satan ne pouvait pas créer le péché. Il a seulement perverti ce que Dieu avait créé. C'est exactement cela. La mort n'est qu'une perversion de la vie. Maintenant, remarquez ceci. Alors, je peux m'avancer et dire, frère Humes, vous et moi, frère Biller et quelques frères, allons vers Papa Dieu et disons, faisons un petit voyage. Vous aimiez les montagnes quand vous étiez. Oui, bien sûr. Eh bien, il y en a sur 2 millions de kilomètres, là-bas dans ce nouveau monde. Allez, parcourez-les. Je dois arrêter le soleil chaque fois. Montez, je vous écouterai. Alors qu'ils parleront encore, je les entendrai. Ésaïe 66. C'est vrai. Et vous savez que je suis en train de marcher là. Nous tous, nous marchons là depuis près de 500 ans. Juste un petit voyage. Peut-être 1 million d'années. Cela ne fait pas de différence, voyez-vous. Cela paraît de la folie, mais c'est la vérité. Voyez-vous, c'est la vérité parce qu'il n'y a pas de temps. C'est l'éternité. Et quand je sortirai et que je me promènerai dans ce lieu, savez-vous qui le rencontrerait là-bas? Je dirais, mais n'est-ce pas Sœur Georgia Bruce? Sœur Georgia, cela fait longtemps que je ne vous ai pas vue. Elle a toujours la même apparence. Voyez-vous, elle a peut-être 8 ou 10 millions d'années, mais elle est plus jeune que jamais. Elle est en train de gratter le dos de quelqu'un. Je regarde, et c'est Cheetah, le lion. Je dirais, comment vas-tu ce matin, Cheetah? Il miaulera comme un chat. Oh, je suis allé là-bas parler à certaines des sœurs qui sont près de ces grandes fleurs. Nous sommes restés là-bas environ 500 ans, voyez-vous, à regarder. Cela paraît de la folie, mais c'est la vérité. Exactement, c'est ainsi que Dieu l'avait projeté. Que Dieu vous bénisse, sœur Georgia. Aucun mal ne peut venir. Rien du tout. Vers le soir, nous monterons au sommet de la montagne et nous dirons, oh, oh, Papa Dieu, une fois j'étais perdu. Oh, une fois j'étais dans la boue du péché, Papa Dieu, et tu m'as sauvé. Les gens qui ont essayé d'exprimer cela sont devenus fous. Cet homme qui écrivit le dernier verset de « Oh, amour de Dieu », l'écrivit sur le mur de cette maison d'aliénés. Il essaya d'exprimer l'amour de Dieu, montrant comme il s'est baissé pour sauver les pécheurs, et comme il a donné son amour pour descendre. Et pour nous sauver, vous et moi. Parlez d'adoration. Les anges n'en savent rien. Un ange sait seulement, il se tient là, il bat les ailes et crie « Alléluia, Alléluia !» Mais ô miséricorde, quand il s'agit de savoir que j'étais perdu et que maintenant je suis retrouvé, que j'étais mort et que je vis de nouveau, oh Dieu, j'étais péché, j'étais boue, j'étais à la décharge. Voici le meilleur de ce que la vie pouvait vous donner. Avez-vous déjà été ici, à la décharge Colgate? C'est l'endroit le plus nauséabond où j'ai jamais été. Cela me rend malade de sentir cette espèce de fumée. Si vous vous tenez là, dans cette fumée, vous devenez si malade que votre estomac se retourne, comme après avoir pris de l'huile de ricin. Vous êtes malade comme tout, et les rats courent sur vous, essayant de vous manger. Et c'est là le meilleur de la vie. Alors quelqu'un tend la main et vous ramasse. Vous êtes très vieux, et vous ne pouvez pas vous bouger vous-même. Elle vous ramasse et vous change en un garçon de 18 ans. Il vous place au sommet d'une montagne, dans la fleur de l'âge. Une bonne bouffée d'air frais et une bonne goutte d'eau fraîche. Voudriez-vous retourner dans cette décharge? Jamais, jamais, jamais. Vous ne voudriez jamais y retourner. Eh bien, c'est ce que cela signifie, mes amis. Voilà ce que fut la vision ou la translation, quoi que cela soit. Une vision, je dis vision parce que j'ai peur de blesser quelqu'un en disant translation. C'est ce que c'était. C'est là que Dieu, ce que fit Dieu pour amener à lui des fils et des filles. Maintenant, qui sont ces gens? Comment ont-ils, qu'ont fait ces gens pour mériter ceci? Comment ont-ils fait? Dieu, au commencement, avant même qu'un ange fût créé, combien savent qu'il est infini? Maintenant vous, frères trinitaires, je ne veux pas vous blesser. Mais comment, au nom de la bonne parole de Dieu, pouvez-vous faire de Jésus une personne séparée de Dieu lui-même? Si Jésus pouvait prendre une autre personne et la faire mourir pour racheter cette personne ici, il serait un être injuste. Dieu ne pouvait le faire que d'une manière, et c'était en prenant lui-même la place. Dieu devint chair afin de pouvoir goûter aux affres de la mort et ainsi éloigner de nous l'aiguillon de la mort pour que nous puissions être rachetés par son propre. C'est pourquoi il sera un sujet d'adoration pour nous. Jésus était un homme, assurément il l'était. Il était un homme, H-O-M-M-E, né de la Vierge Marie. Mais l'Esprit qui était en lui était Dieu sans mesure. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il était Jéhovah Jireh, il était Jéhovah Rapha, il était Jéhovah Manassé, il était Jéhovah notre bouclier, notre guérisseur. Il était l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il était le premier et le dernier. Il était celui qui était, qui est et qui vient. La racine et le rejeton de David, l'étoile du matin. Il était tout en tous. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. La mort a toujours eu un aiguillon pour piquer les gens. Ah, dit le diable, je vous ai eu parce que vous m'avez écouté. Je te pique, je te mets dans la tombe. Ce sang de mouton ne peut pas t'aider. Ce n'est que du sang d'animal. Dieu, dans sa sagesse, savait qu'un agneau viendrait et serait immolé dès la fondation du monde. Oui, monsieur. Il attendit pour cela que les temps se soient accomplis. Ainsi, un jour, quand cet agneau vint, cet homme, même Satan, fut dupé. Il regarda autour de lui et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Si tu es le Fils de Dieu, accomplis un miracle et laisse-moi te regarder le faire. Laisse-moi te regarder le faire. Ah ah, j'attacherai un tissu autour de ton visage et je te casserai la figure. Si tu es un prophète, dis-nous qui t'a frappé. Je ne crois pas que ce soit l'homme. Si tu l'es, dis-le-nous franchement. Voyez-vous, tout comme cela. Oh, dis-nous qui tu es. Il n'ouvrit pas la bouche. Oh, oh. Alors il retira la laine sur ses yeux. Il regarda vers les disciples et dit, « Je pourrais parler à mon Père qui m'enverrait 12 légions d'anges. » Ha ha! Pilate n'entendit pas cela, vous savez. « Si tu es, si tu es !»« Oh, ce n'est pas lui !»« Oh, regardez le Seigneur !»« Eh, soldat, que certains d'entre vous aillent là-bas lui cracher au visage et lui arracher une poignée de la barbe !»« Ah, il n'est pas cela !»« Non, ce n'est pas lui !»« Je vais lui planter mon aiguillon !»« Je le ferai monter, je l'ai maintenant !» Que j'étais là qui criait, « Élie, Élie, mon Dieu, mon Dieu !»« Pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était un homme dans le jardin de Gethsémané. L'onction le quitta. Il dut mourir en tant que pécheur. Il mourut en pécheur, vous savez cela. Ce n'était pas ses péchés, mais les miens et les vôtres. C'est là que cet amour fut manifesté. Là, il prit mes péchés. Oh, alléluia, il les prit. Il était là, il ne pouvait pas ouvrir sa bouche. Satan dit, « Vous savez, je crois que ce n'est qu'un homme ordinaire. Il n'est pas né virginalement. C'est pourquoi je vais planter mon aiguillon, lui. Le voilà qui vient, lui plante son aiguillon. Mais c'était le mauvais moment. Ah! Son aiguillon fut alors retiré. Depuis ce moment-là, il ne peut plus piquer. Il y laissa son aiguillon. Christ ressuscita le troisième jour et dit, « J'étais mort et je suis revenu à la vie. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Oui, monsieur, il ne vit pas qui il était. Lorsqu'il dit, parce que je vis, vous vivrez aussi, n'avait pas encore été manifesté. Mais 3 ou 4 jours après cet événement, après qu'il fut monté vers le Père, et qu'il en redescendit, certains dirent, oh, ce doit être un fantôme. Il y a quelque chose qui tient du fantôme chez cet homme. Vous avez une vision? Non, c'était le véritable Jésus. Thomas dit, faites-moi voir ses mains et les autres choses. Je vous dirai si c'est bien lui. Il dit, me voici. Avez-vous du poisson et du pain par ici? Apportez-moi un sandwich. Il apportera un sandwich. Il se tint là, le mangea et dit, un esprit mange-t-il comme je le fais? Un esprit a-t-il de la chair et des os comme moi? Voyez-vous? Il dit, je le suis. Paul dit, il n'a pas encore été manifesté quelle sorte de corps nous aurons, mais nous savons que nous aurons un corps comme le sien. Quoi? A-t-il eu une fois ce corps de Théophanie? Oui, monsieur. Quand il mourut, la Bible dit qu'il, un pronom personnel de nouveau, qu'il alla en enfer et qu'il prêcha aux âmes en prison. Alléluia! Comment le fit-il? Il avait le sens du toucher, il avait le sens de l'ouïe, il avait le sens de la parole. Il prêcha dans la même sorte de corps qu'avaient ceux que je vis glorifier l'autre nuit. Il prêcha aux âmes qui étaient en enfer, qui ne se sont pas repenties lorsque la patience de Dieu se prolongea au jour de Noé. Mais quand il ressuscita à Pâques, ce n'était pas possible que son corps voie la corruption, parce que David, un prophète, l'avait vu d'avance. Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts, je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. Mon corps repose en sécurité, car il ne livrera pas mon âme au séjour des morts, et ne permettra pas que mon bien-aimé voie la corruption. Et 72 heures avant que la corruption puisse s'installer dans cette théophanie, ce corps qui a l'air précieux aux âmes qui étaient en prison et qui ne se repentirent pas lorsque la passion de Dieu se prolongea au jour de Noé, ce corps ressuscita, le mortel revêtit l'immortalité, et ce temps-là, il mangea et nous dit qu'il était un homme. Alléluia.
Amen.
C'est ainsi que nous le verrons, frère Evans. C'est alors qu'il s'assiera sur le trône de David. Alléluia. C'est quand nous marcherons de ceci, de cela, de là. Je ferai un voyage avec vous par-dessus les montagnes pendant 1 million d'années. Juste quelques jours, quelques minutes, nous traverserons, nous nous assierons là-bas. Lorsque le moment arrive de manger, vous savez, Sir Woods dit, je dis, Sir Woods, où étiez-vous pendant tout ce temps? Je ne vous ai pas vu pendant, il me semble que cela faisait 15 minutes. Oh, il y a 2000 ans, frère Branham. Comment allez-vous? Oh, vous ne pouvez parler autrement que bien. Dites, venez par ici, je vais vous montrer quelque chose, frère. Mes chers frères, voici une fontaine, la meilleure à laquelle vous n'ayez jamais vu. Oh, nous prendrons une bonne gorgée d'eau fraîche, je tendrai la main, je saisirai une grande grappe de raisin, et nous nous assierons tous là-bas, nous la mangerons. C'est exactement ainsi, c'est cela. Comment obtenons-nous ceci? Comment le savons-nous? Dieu, avant la fondation du monde, nous a prédestinés. Qui? Ceux qui sont dans la terre promise. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire, de sa grâce, afin que nous puissions le louer comme il a dit. C'est pourquoi il était Dieu, c'est afin qu'on le loue, la louange de sa gloire, de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé, Jésus-Christ, car nous avons été acceptés. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des P-E-C-H-E-S.
Amen.
Je dois retourner à l'adoption, mais je veux m'arrêter au péché une minute. Voyez-vous, les péchés, avez-vous remarqué cela? Savez-vous que Dieu ne condamne pas un pécheur pour avoir péché? Il le condamne pour être un pécheur. Si un pécheur fume un cigare, il ne le condamne pas pour cela. Il est un pécheur de toute manière, voyez-vous? Il n'a pas de péché, un pécheur n'en a pas. Il est simplement un pécheur, voyez-vous? Il n'a pas de péché, mais vous avez des péchés, vous, en tant que chrétien. Vous remarquez qu'ici, il parle à l'Église. Gardez-le net. Voyez-vous, la rémission des péchés, P-E-C-H-E-S, nous commettons des péchés, mais le pécheur est simplement un pécheur. Dieu ne pardonne pas, c'est... Maintenant vous dites, eh bien, il est allé là-bas et a tiré sur un homme, qu'allez-vous faire à ce sujet? Ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas un réformateur, je suis un prédicateur. La loi s'occupera de cela. Eux sont des réformateurs, c'est sûr. Vous dites, il a commis adultère. Cela appartient à la loi. C'est entre lui et la loi. Je ne suis pas un réformateur. Je ne réprimande pas les gens. Je veux faire en sorte qu'ils se convertissent. Je suis un prédicateur, voyez-vous. C'est mon travail de l'amener à Dieu. S'il pêche, c'est son affaire. Il est un pécheur. Dieu le condamne à un niveau plus haut. Pour commencer, il est un pécheur. Il est déjà condamné. Il n'est même pas arrivé à la première étape. Il est nulle part. Il est un pécheur pour commencer. Il n'a pas de péché. Il est un pécheur. Vous ne pouvez pas sortir et dire, cette partie est la nuit, et celle-là ne l'est pas. Non, c'est tout la nuit. C'est tout la nuit. C'est ce que Dieu a dit, c'est vrai. Il est simplement un pécheur, c'est tout. Il a fait ceci, cette partie est la nuit. C'est vraiment la nuit noire à cet endroit. Je sais, mais c'est simplement tout nuit, c'est tout. Voyez-vous, maintenant je ne pourrais pas dire, maintenant cette partie est lumière ici. Non, tout est lumière, voyez-vous. Tout est lumière. Vous ne pouvez pas dire dans quelle mesure, voyez-vous. Mais s'il y a un point noir dans ceci, alors c'est qu'il y a là des ténèbres. Ainsi les péchés, P-E-C-H-E-S, nous avons la rémission de nos péchés par son quoi? Son sang, son précieux sang, selon la richesse de ça, comment la recevons-nous? Parce que nous sommes dignes, parce que nous avons fait quelque chose pour que nos péchés soient pardonnés. Sa quoi? Grâce. Oh, je n'apporte rien dans mes bras, Seigneur. Je ne peux rien faire. Il n'y a rien que je puisse faire. Regardez, il m'a prédestiné, il m'a appelé, il m'a choisi. Je ne l'ai jamais choisi, lui m'a choisi, lui vous a choisi, lui nous a tous choisis, nous ne l'avons pas choisi. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Puis encore, Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement, et tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils de la perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Voyez-vous, il dit tout ce que le Père me donne viendra à moi. Oh, je m'attarde trop maintenant, et je ne sortirai jamais de ce. Je n'ai pas encore commencé avec ceci. Il faut que je me dépêche. Je dois arriver à quelque chose ici rapidement. Maintenant, si nous dépêchons, je dois retourner à cette adoption une minute. Oh, voulez-vous me pardonner? Juste une minute? Prenons ceci. Certaines de ces personnes viennent de loin, comme de la Géorgie. Que Dieu les bénisse. Maintenant, frères de Géorgie et du Texas, d'où que vous soyez, écoutez ceci. Verset 5. Arrêtons-nous là-dessus quelques minutes. Nous ayons prédestiné à... Que veut dire le mot « à » ? Le mot « à », il signifie que c'est quelque chose auquel nous arrivons. « À », je vais à la fontaine, je vais à l'église. Avez-vous compris cela ? Je vais à la chair. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À qui revient le plaisir? La bonté? À lui. Son bon plaisir de sa volonté. Maintenant, qu'est-ce que l'adoption? Maintenant, laissez-moi. Maintenant, comprenez ceci. Je ne sais pas si je n'aurai pas le temps de terminer ceci, mais je le mentionnerai néanmoins, et si une question, vous pouvez me la poser un peu plus tard. Regardez, votre adoption n'est pas votre naissance. Votre adoption est votre placement. Quand vous êtes né de nouveau, Jean 17, je crois, quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. Mais nous étions prédestinés. Maintenant, voici ce que j'essaie de vous faire comprendre au sujet de ces fils des derniers jours, vous voyez. Nous étions prédestinés à l'adoption. Oh, maintenant nous y sommes. Maintenant ceci est ce qui blesse un peu la Pentecôte. Ils disent, je suis né de nouveau, que le Seigneur soit loué, j'ai le Saint-Esprit. C'est bien, vous êtes un enfant de Dieu, c'est vrai. Mais pourtant, ce n'est pas ce dont je vous parle. Voyez-vous, vous étiez prédestinés à l'adoption. L'adoption est le placement d'un fils. Je suis trop près de ce micro. Betty m'a dit que si l'on se met trop près, on ne peut pas entendre au fond. Je suis, voyez-vous, un enfant. Combien connaissent les règles de l'adoption dans l'Ancien Testament? Bien sûr, assurément. Regardez, un fils est né. Je crois que j'ai dans un sermon. Lequel est-ce, Jean? Vous souvenez-vous? C'est sur une bande. Oh, ah, qu'est-ce? J'en ai traité. Oh oui, je m'en souviens. Écoutez-le. Écoutez-le, l'adoption des enfants. Dans l'Ancien Testament, quand un enfant naissait dans la famille, il était un enfant quand il venait au monde parce qu'il était né de ses parents. Il était un fils de cette famille et l'héritier de tout. Mais ce fils était élevé par des tuteurs. Galates, chapitre 5, versets 1 à 7. Bien. Il était élevé par des tuteurs, des précepteurs, des professeurs. Par exemple, si j'avais un fils, disons que je sois un père. Et c'est la raison pour laquelle le roi Jacques, combien a déjà réalisé que ce passage de la version du roi Jacques était bizarre. De la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Une maison, plusieurs demeures. Voyez-vous? En fait, du temps où la Bible fut traduite pour le roi Jacques, une maison était un domaine. Dans le domaine de mon père, il y a plusieurs demeures. Pas dans une maison, une demeure, mais il était appelé le père de ce domaine. Il avait d'une façon très biblique. Dans la Bible, c'est ainsi. Quand un père possédait une grande ferme de 500 hectares, il avait à son service des gens qui vivaient là. Il avait un mercenaire pour s'occuper des moutons, voyez-vous. Il avait des gens pour s'occuper du bétail, d'autres pour exploiter la région supérieure, à 150 kilomètres de là. Il en avait qui s'occupaient des chèvres, d'autres des mulets et de différentes choses. Son royaume étant vaste, il montait sur un petit âne pour aller de l'un à l'autre. et voir à quoi ils en étaient avec la tonde des moutons et chacune de leurs activités. Ils n'avaient pas le temps. Il s'en allait pour essayer de s'occuper de son royaume. Ainsi, il veut, ce fils sera l'héritier de tout ce qu'il a. Il est un héritier, et quand nous naissons dans le royaume de Dieu par Jésus-Christ, nous sommes héritiers du ciel, co-héritiers, co-héritiers avec Jésus, parce qu'il a pris notre place. Il s'est identifié à nous, s'est fait péché, afin que nous puissions devenir semblables à lui, justice. Voyez-vous, il est devenu moi, afin que je puisse devenir lui. Voyez-vous, co-héritier avec lui. Très bien. Maintenant, souvenez-vous de cela, chacun d'entre vous. Maintenant, souvenez-vous, Dieu, dans sa préscience, vous a prédestiné à venir à cela. Que tous ceux qui le comprennent lèvent la main. Dieu, connaissant toutes choses d'avance, vous prédestina à venir à la terre promise. Qu'est-ce que la terre promise pour le chrétien d'aujourd'hui? Levez la main si vous savez. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, Ésaïe 28:10, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, retenez ce qui est bon, car c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos, la terre du sabbat, dans laquelle j'ai dit qu'ils devaient entrer. Mais ils n'ont pas point voulu écouter. Ils secouèrent la tête et s'en allèrent sans vouloir l'entendre. Voyez-vous, exactement. Qu'était-ce? Exactement comme ces gens qui avaient parcouru tout le chemin depuis Canaan, ou depuis l'Égypte. Tout le chemin, à travers le désert, était venu tout près d'eux, suffisamment près pour goûter du raisin qui venait du pays. Frères, ces hommes veulent que je retire ce que j'ai dit au sujet d'Hébreux 6. Comment puis-je le faire? Ce sont des croyants limitrophes. Ils n'iront jamais de l'autre côté. Ils ne le peuvent pas. Jésus a dit, ils dirent, nos pères mangèrent de la manne dans le désert. Et Jésus dit, ils sont tous morts. C'est-à-dire séparés. Ils sont tous morts. C'est vrai. Il dit, je suis le pain de vie qui vient de Dieu et qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain ne mourra jamais. C'est vrai. Oui, monsieur, il reçoit la vie éternelle s'il en mange. Je suis cet arbre de vie du jardin d'Éden. Maintenant, voyez-vous, ces gens viennent si près. Voyez-vous, si vous remarquez dans Hébreux 6, retournez à cela, et dans Hébreux 6, ces gens qui, une fois ou une part, sont venus si près, ont goûté le don céleste, ils sont venus et ont vu des guérisons, ils ont vu des gens remplis de la puissance de Dieu, ils ont vu des vies changées, mais ils ne veulent pas y toucher. Non, monsieur. Ils ont goûté, et ont goûté les puissances du siècle à venir, soient encore renouvelées et amenées à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et qu'ils tiennent pour profane le sang de l'Alliance par lequel ils ont été sanctifiés. J'appartiens à une église qui croit dans la sanctification. C'est bien. Mais vous n'allez pas assez loin, voyez-vous? Oui, monsieur. Le désert les sanctifia. Oui, certainement. Ils avaient le serpent des reins et l'autel des reins, et tout cela était pour leur sanctification. Mais ils entrèrent en Palestine pour le repos. Regardez dans Hébreux 4. Ne part-il pas d'un autre repos? Dieu créa le septième jour. Il leur donna de se reposer le septième jour. À un autre endroit, il parle du jour du repos comme du jour de David. Alors, il leur a donné un autre repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Entrez dans ce repos, car nous qui sommes entrés dans ce repos, nous nous sommes reposés de nos œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes le jour du sabbat. Certainement. Voilà votre repos du sabbat. Voilà votre véritable repos dans cette terre promise. Le Saint-Esprit est une promesse pour les gens. Pourquoi veulent-ils des prédicateurs instruits, érudits, qui les laisseront porter des shorts, couper leurs cheveux, mettre du rouge à lèvres, et les hommes jouer, boire de la bière, dire des plaisanteries, se conduire comme cela, et s'appeler néanmoins membres d'église? Après avoir toléré cela, ils refuseront la direction du Saint-Esprit. La Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager jointure et moelle. Elle discerne même les pensées du cœur. Oui, même les pensées de l'esprit. Et si nous aimons le monde ou les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est point dans nous. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, car étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Jésus déclara, plusieurs viendront ce jour-là et seront à table dans le royaume des cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais les enfants du royaume seront jetés dehors et ils crieront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas rempli la fonction de docteur révérend tel? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là qui entre. C'est cela. Entrez dans cette terre promise. Comment y entrons-nous? Nous sommes prédestinés à cela. L'Église, par la préscience de Dieu, a été prédestinée à quoi? À l'honorer par sa grâce, à la louange de la gloire de Dieu. Papa se trouvait là au commencement, existant par lui-même, n'ayant rien autour de lui, il voulait quelque chose pour l'adorer. C'est pourquoi il ordonna d'avance et prédestina une église avant la fondation du monde et inscrit leur nom dans le livre de vie de l'agneau, lorsqu'il fut immolé avant la fondation du monde, afin qu'il paraisse à la louange de sa gloire, à la fin des temps, quand il réunira toutes choses en cet homme Jésus-Christ. Gloire! C'est cela, ici même, mon frère et ma sœur, n'en bougez jamais. Dieu, par sa grâce élective, vous a appelé. Dieu, par sa grâce élective, vous a sanctifié. Dieu, par sa grâce élective et sa puissance, vous a baptisé et placé dans ce pays de repos. Ceux qui sont entrés dans ce repos ont cessé de s'égarer. Ils se sont reposés de leurs œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Ils ont une joie ineffable et glorieuse, et l'arbre de vie fleurit en eux. Ils ont de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la foi, de la douceur, etc. L'arbre de vie fleurit en eux, parce que leur espérance est ancrée en Jésus-Christ.
Amen.
Le Saint-Esprit rend témoignage par des signes et des miracles qui suivent le croyant. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Comme ils vont de l'avant, ils guérissent les malades, ils chassent les démons, ils parlent en langue, ils ont des visions, ils marchent toujours avec Dieu, ils parlent avec Dieu. Aucun démon ne peut les ébranler. Ils sont inébranlables, attendant ce qui est éternel et oubliant les choses qui sont du passé. Ils courent vers le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. Vous y êtes, vous y êtes. C'est cette Église-là. Comment sont-ils parvenus? Vous ne pouvez pas dire, eh bien Seigneur, tu sais qu'un jour j'ai commencé à fumer le cigare et je suis tombé, et j'ai pensé que je pourrais. Oh non, 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 la prédestination. Il a appelé, certains d'entre eux étaient tombés, alors nous disons, oh Dieu, nous étions perdus, nous n'avions même pas l'idée de nous sauver nous-mêmes, nous étions de la même nature que les cochons. Nous étions des cochons dès le début. Allez seulement dans un enclos à cochons et regardez une vieille truie. Dites-lui, maintenant regarde ici, vieille copine, je veux te dire quelque chose. Ce n'est pas juste pour toi de boire de la lavure. Elle dirait, oink, oink. C'est tout ce que vous avez en voulant vous sauver vous-même. Exactement. Vous dites, madame, vous ne devriez pas porter de tels habits. Vous devriez vous habiller avec goût. Vous devriez faire ceci, vous ne devriez pas aller, vous ne devriez pas faire ces parties de cartes. Vous ne devriez pas fumer ces cigarettes. Vous ne devriez pas faire ceci. Monsieur, vous ne devriez pas porter ces choses. Oink, oink. J'appartiens au oink, oink, oink. C'est à peu près tout ce qu'ils savent. Je vous ferai savoir que je suis aussi bon que vous. Oink, oink. Voyez-vous, ils rejettent la direction du Saint-Esprit. Car la Bible dit que si vous aimez le monde ou les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Qu'est-ce qui les rend étranges? Vous êtes une nation sainte. Qu'avez-vous fait? Vous êtes sorti de ce pays. Vous êtes dans un autre pays. Comment y êtes-vous arrivé? C'est la terre promise. Quel genre de promesse? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans cette terre promise. Amen. Frères et sœurs, alléluia, avec un cœur pur, sans jalousie, sans inimitié, ni rien d'autre. Si un frère s'égare, peu m'importe ce qu'il fait, vous allez à sa recherche. Je suis allé à la recherche d'un frère il n'y a pas longtemps, d'un frère qui est égaré. Un jeune homme me dit, laissez ce fripon partir, laissez-le. Je dis, si une fois j'en arrive au point où mon cœur n'est pas porté vers mon frère, alors c'est le moment pour moi d'aller à l'autel, parce que je suis tombé de la grâce. Je dis, j'irai aussi longtemps qu'il y a un souffle de vie dans son corps, et je le rejoindrai quelque part sur le chemin. Oui, monsieur, et je l'ai rejoint. Alléluia. Je l'ai ramené. Oui, monsieur. Il est maintenant de nouveau en sécurité dans la bergerie. Oui, monsieur, il s'était égaré, pour sûr. Il y a quelque temps, quand je vis cette pauvre petite femme qui était assise là, et que le shérif m'appela, il me dit, elle devrait être dans une camisole de force, elle divague, elle est hors d'elle-même. Ils voulaient la conduire dans un hôtel, mais ils ne peuvent pas. Je dis, c'est en ordre. Le shérif dit, Billy, je le connais très bien, je connais depuis mon enfance. Il dit, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider? Je lui dis, ça ira. Il dit, peux-tu l'aider? Je répondis, non, mais lui, il le peut. Il peut faire n'importe quoi. Ainsi, la conduisirent là-bas, et quand elle en sortit il y a quelque temps, elle était calme. Qu'était-ce? Nous avons intercédé en sa faveur. Amen. Ils dirent, voulez-vous faire venir le docteur? Il dit à son mari, voulez-vous faire venir un docteur? Il répondit, un docteur ne peut rien faire pour elle. Et c'est vrai, elle était aliénée. Un docteur ne peut rien faire pour elle. Je dis, notre seul espoir, c'est d'arriver là-bas. Elle me dit, Billy, je ne comprends pas cela. Je lui répondis, je ne m'attends pas à ce que vous le compreniez. Je ne m'y attends pas. Mais oh, moi non plus, je ne le comprends pas. Et tous les frères non plus. Je me souviens une fois, lorsque j'étais très loin, quelque chose vint à ma recherche. Amen. Ce n'est pas parce que je voulais venir, mais quelque chose est venu me chercher. Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu nous prédestina. Alléluia. Pour que nous soyons à lui, pour son honneur et sa gloire. Écoutez, ceux qu'il a connus d'avance, il les a quoi? Appelés. Est-ce vrai?
Amen.
Vous a-t-il appelé?
Amen.
Oui. Pourquoi vous a-t-il appelé? Il vous a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Est-ce vrai?
Amen.
Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Amen. C'est ce que dit la Bible. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Dans chaque génération, ceux qu'il a appelés, il les a déjà glorifiés. Laissez-moi lire l'Écriture ici. Très bien. Nous ayant prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire. Le comprenez-vous?
Amen.
À la louange de sa gloire. Afin qu'il puisse s'asseoir dans les âges éternels et entendre ses enfants s'écrier « Abba, Père! Abba, Père! » Et les anges diront « De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? » Cela est si merveilleusement démontré dans le Fils prodigue. J'étais perdu. Celui-ci est mon Fils. Il était perdu et maintenant il est retrouvé. Il était mort et il vit de nouveau. Apportez le beau gras. La plus belle robe, un anneau, et mettez-le à son doigt. Ayons, ce n'est pas étonnant que les étoiles, ce matin-là, aient éclaté en chant d'allégresse, et que les fils de Dieu aient poussé des cris de joie en voyant son plan de salut. Dieu ayant inscrit votre nom dans le livre de vie avant la fondation du monde. Maintenant vous dites, Calvin croyait en cela. Je ne crois pas en Calvin. Calvin était un meurtrier. Calvin mit à mort un homme parce qu'il baptisait au nom de Jésus. C'était un fripon. Qui avait lui-même besoin d'être converti. Oui, monsieur. Bien que ce qu'il a dit au sujet de certaines choses était juste. Néanmoins, ses actions, un homme qui tuerait un autre homme pour quelque chose comme cela, c'est horrible. C'est scandaleux. Bien. Que Dieu a répondu abondamment sur nous. Oh, attendez. Je n'ai pas parlé sur cette adoption, n'est-ce pas? Est-ce trop tard? Voyons l'heure qu'indique cette montre ici en haut. Très bien. Juste, disons 10 minutes. Par égard pour ces gens qui viennent de loin. Regardez, regardez. l'adoption. Laissez-moi vous montrer maintenant ce que c'est. Un père avait un grand royaume qu'il parcourt. Maintenant un fils lui est né. Oh, il est si heureux. Cela, c'est Dieu. Ainsi savez-vous ce que fait ce père? Il cherche le meilleur éducateur, précepteur. Vous savez ce qu'est un précepteur, n'est-ce pas? Un maître d'école. Il cherche le meilleur maître d'école qu'il puisse trouver dans tout le pays. Nous arrivons maintenant. Écoutez. Et il trouve le meilleur maître d'école. Il ne prendrait pas pour rien. Il veut que son garçon soit un véritable homme. Ne voulez-vous pas que vos enfants soient ainsi? Bien sûr. Le meilleur que vous puissiez leur donner. Oui, monsieur. Ainsi, si un homme naturel pense ainsi, à quoi croyez-vous que Dieu a aspiré pour ses enfants? Au meilleur. Ainsi, il veut un homme qui soit honnête. Il ne veut pas un homme qui dise, « Maintenant, regarde, Junior, tu peux faire tout ce que tu veux, mon gars. Oh oui, père, il va très bien. C'est un bon garçon. » Pour recevoir une petite tape sur l'épaule et une plume à son oreille, à son chapeau. Non, non, cet homme serait mis immédiatement à la porte, assurément. Il veut un homme qui soit sincère. Si ce garçon marche bien, dites-le-lui. Si ce n'est pas le cas, dites-lui ce qui ne va pas. Et si un père terrestre pensait cela, ne voudriez-vous pas un homme qui soit honnête avec vous, que le maître d'école soit honnête au sujet de vos enfants? Bien sûr. Que croyez-vous que Dieu pense? Lui sait tout, nous pas, mais lui, oui. Nous sommes limités, nous ne pourrions pas dire, mais il est infini et il sait tout. Ainsi savez-vous ce que faisait le père? Jamais il n'aurait dit, je vais prendre un pape pour surveiller mes enfants. Il ne disait pas non plus, je vais prendre un évêque. Non, non. Il ne faisait pas cela, car il savait que le pape serait dans l'erreur, de même que l'évêque. Voyez-vous, il n'a jamais dit, je prendrai un surveillant général pour surveiller mes églises. Non, non. Il prit le Saint-Esprit.
Amen.
C'était son tuteur pour élever ses enfants. Très bien. Alors, comment sauriez-vous que le Saint-Esprit ne fait pas? Il parle au travers d'une bouche humaine. Alors, comment savez-vous qu'il dit la vérité? Quand vous voyez le Saint-Esprit parler au travers d'une bouche qui dit exactement la vérité chaque fois, qui prédit et que cela arrive parfaitement, comme dans le cas de Samuel, alors vous savez que c'est la vérité. Cela est correct, car Dieu a dit, s'il parle et que ce qu'il dit n'arrive pas, ne l'écoutez pas, parce que je ne suis pas avec lui. Mais si cela arrive, alors écoutez-le, car je suis avec lui. Vous y êtes. C'est ainsi qu'il fait. Ensuite, il s'en va. Maintenant, que pensez-vous que ce précepteur dirait? S'il devait aller vers le père et lui dire, tes enfants agissent d'une façon terrible. Laisse-moi te dire que ton garçon est un renégat. C'est un vagabond. Je n'en ai jamais vu de pareil. Oh, sais-tu ce qu'il fait? Et ta fille? Oh, je ne sais pas ce qu'il va faire avec elle. Tu sais quoi? Elle se conduit mal. Elle se farde comme certaines filles des Philistins. Elle veut agir comme elle. Ma fille? Oui, ta fille. Et c'est ce que le Saint-Esprit doit dire aujourd'hui au sujet de l'Église. Ce n'est pas étonnant que nous ne puissions pas avoir de réveil. Voyez-vous, maintenant c'est la vérité. Qu'en est-il de mon fils? Eh bien, c'est la même chose. Quoi? Eh bien, tu sais que tu as toujours dit que ces moutons devaient rester dans ces pâturages là-bas en haut, où il y a des herbages pour moutons. Mais c'est tout ce qu'il a fait. Il les a conduits là en bas, dans ce tas de mauvaises herbes. Il les a emmenés là-bas, les a fait entrer dans ce ruisseau, et les a laissés ensuite aller dans ces mauvaises herbes et à manger ces feuilles de saule. Ils étaient si chétifs qu'ils ne pouvaient à peine en sortir. Ce sont les évêques, les pasteurs qui renient ceux qui ont fait la force. Eh bien, laisse-moi te dire la vérité. Je n'ai jamais vu dans ma vie un troupeau de moutons aussi nerveux. Ils n'aiment pas cela, non. Et tu sais quoi? Ce bétail qui est là-bas, tu leur as dit de les nourrir avec cette luzerne, pour les rendre gras. Oui. Tu sais ce qu'ils leur donnent? Non. Cette espèce de mauvaise herbe dure. Oui. Ils les poussent à se joindre à des sociétés et autres. Tu n'as jamais rien vu de pareil dans ta vie. Tu sais ce qu'il fait? Il se promène là-bas en fumant de gros cigares. Il a sa femme avec lui. Elle porte des shorts, comme les Philistins là-bas. Oui, c'est le genre de message que le Saint-Esprit doit apporter au sujet de l'Église aujourd'hui. Maintenant, que pensez-vous de cela? C'est l'adoption. Qu'a-t-il fait? Il nous a prédestinés à l'adoption. Il nous a donné le Saint-Esprit. Mais attendez une minute, l'adoption, c'est ce dont nous parlons, l'adoption. Eh bien, sais-tu ce qu'il fait? L'évêque est venu l'autre jour, il avait là-bas un petit service de guérison, et l'évêque est venu. Alors qu'un frère priait pour les malades, l'évêque a dit, arrêtez cela. Oh oui, cher évêque, nous ferons. Ne coopère pas. Oh non, 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 cher évêque, pour sûr que non. Je suis venu et je lui ai dit la vérité qui sortait directement de ta parole. Je lui ai lu tes lois exactement sur ce qu'il faut faire et n'a pas voulu les écouter. Il a dit, oh, c'était pour un autre âge, un autre fils, pour un autre moment, ce n'est pas pour moi. C'est cela. C'est la vérité, mes amis. Maintenant, ne voyez-vous pas où l'Église manque son placement? Pourquoi nous n'avons pas de réveil? Pourquoi nous ne voyons rien se produire? C'est à cause de cela. Jésus a dit, Gad, je veux que tu ailles ici. C'est là que se trouve ta place, selon le plan. Ta place se trouve à cet endroit. Va là, Gad, et reste-y. Benjamin, toi, viens d'ici. Et maintenant, restez tous éloignés de la frontière des Philistins. Quand Josué revint, il les trouva tous mélangés aux Philistins, en train d'avoir une grande sauterie, dansant comme cela, toutes les femmes fardées, dansant et s'en donnant à cœur joie. Josué se gratta la tête et dit, « Maintenant, que faire ?» C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Pas avec tous, Dieu merci, mais trop souvent. Bon, ainsi que se passe-t-il ? Ne pensez-vous pas que cet homme, que le Saint-Esprit doit rougir devant le Père quand il doit faire une telle confession? Oh là là! Je le lui ai dit, mais il n'a pas voulu m'écouter. Et je lui ai même dit, même fait lire ici dans le livre. J'ai fait venir un petit prédicateur pour lui montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu sais quoi? Il a fait venir un de ses bergers à chèvres, qui lui a dit que c'était pour un autre âge. Vois-tu? Oh, il sentait si mauvais, du temps qu'il arrive, avec cette odeur de chèvre, des cigares, vous savez. Il sentait si mauvais quand il arriva. Mais laisse-moi te dire que ce berger à chèvre avait assez de médailles accrochées sur lui. Laisse-moi te dire que s'il fallait écrire son nom dans le journal, dans le nécrologe, cela prendrait la moitié d'une page pour écrire son titre. Oui, monsieur, bien sûr, il l'aime bien là-bas dans ce pays. Laisse-moi te dire une chose, c'est qu'il ne sait en tout cas pas comment nourrir des moutons. Il ne veut pas m'écouter, dit le Saint-Esprit. J'essaye de lui dire que tu es le même aujourd'hui, hier, éternellement. Mais il ne veut pas accepter cela. C'est le plus grand poltron que j'ai jamais vu dans ma vie. Pourtant l'Église l'a nommé surveillant, évêque, etc. Tous les gens l'écoutent. Et alors tu sais quoi? Ils ont là-bas une sorte de boîte qu'ils appellent la télévision. Ils la mettent en marche. Et ces femmes viennent et se conduisent mal, étant à demi vêtues, et tu sais, beaucoup de tes filles sont... Oh, sûrement pas. Oui, elles le sont. Certaines d'entre elles réclament à grand cri un réveil. Père, certaines d'entre elles désirent vraiment, certaines d'entre elles marchent vraiment dans la ligne. Certaines d'entre elles restent aussi fidèles à cette parole que possible. Avec les autres, je ne sais pas que faire. Elles sont là-bas. Sais-tu ce que font les autres? Elles se moquent d'elles. Elles disent qu'elles ne sont qu'en train de toquer. Eh bien, cela l'attriste beaucoup. Mais maintenant, changeons de tableau. Maintenant, le Père, son fils est un bon garçon. Le Père, il y a le tuteur, le Saint-Esprit. Dans quelque direction qu'il aille, lorsqu'il dit, je vais marcher. Le tuteur dit, l'enfant dit, je marcherai avec toi. Amen. J'irai avec toi. Oh, la colline est terriblement haute, fils. J'irai avec toi. J'ai confiance en toi. Si je commence à être fatigué, tu me prendras par la main et tu me soutiendras. Mais s'il y a des lions là-bas sur la colline, cela n'a pas d'importance aussi longtemps que tu es tout près de moi. Cela ne fait aucune différence. Je continuerai à marcher avec toi. Il y a des difficultés là-bas, des rochers glissants. Peu m'importe aussi longtemps que tu tiens ma main. Je marcherai avec toi. Amen. Tu sais quoi? Ton papa avait l'habitude de faire ainsi. C'est bien, oui, monsieur. Il monte au sommet de la colline. Oh, dit-il, tu sais quoi, père? Ton fils est bien le fils de son père. Il est exactement comme toi. À chaque mot que tu prononces, il dit « Amen ». Je l'ai fait lire l'autre jour dans la Bible, l'endroit où il est dit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement ». C'est tout ce qu'il a dit. Il a crié, jeté ses mains en l'air, il a dit « Alléluia, Amen ». Oh, tu sais qu'il est dit ici dans ta parole, tu sais où il est dit « Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, les fera aussi ». Oui, je me souviens avoir écrit ceci à mon fils. Oui, je m'en souviens. Oh, il a lu cela, il m'a crié, à sauter, il a crié « Alléluia, Seigneur, enlève de moi tout ce qui est du monde, fais-moi comme cela ». Oui, monsieur, c'est ainsi qu'il s'est comporté. Oh, dit le père, je suis content de ce fils. C'est un bon fils. Très bien. Garde un œil sur lui pendant quelques années. Vois comment il avance, comment il progresse. Les années passèrent. Comment se porte-t-il? Oh, il grandit merveilleusement dans la grâce. Oh, c'est moi qui te le dis. Il est vraiment... Il prend tes moutons et il peut les conduire comme toi. Il ne leur donnera jamais d'algues. Il ne leur donnera jamais de mauvaises herbes dures. Lorsqu'ils viennent et disent, nous voulons nous joindre à cette église, il leur dit, taisez-vous, vous n'avez pas besoin de cela. Non, monsieur, voici ce dont vous avez besoin. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de ses péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui, monsieur, c'est ce qu'il dit. Oh, dit-il vraiment cela? Oui, assurément. Mais c'est exactement ainsi que je l'ai écrit. Et c'est ainsi qu'il le dit. Oui, monsieur. Certains ont dit, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Jurée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand ils eurent cela, ils crièrent, Alléluia! C'est donc ce dont vous avez besoin. C'est tout ce qu'il a fait. Il les a retenus là jusqu'à ce qu'il les reçus. Il reste avec eux. Et s'il commence à faire des histoires, il dit, hop, hop, attendez une minute, attendez une minute. C'est ainsi qu'agissent les chèvres, pas les moutons, voyez-vous. Oh, quelquefois ils sont fâchés contre lui. Mais il leur tape sur l'épaule et leur dit, attendez une minute, calmez-vous. Il sait vraiment comment contrôler ses moutons. Oui, monsieur, c'est moi qui vous le dis. Tu sais quoi? J'ai vu l'archevêque un tel lui dire qu'il ne pouvait pas venir dans sa ville y tenir une réunion. Mais tu sais, je l'ai un peu encouragé. Je lui ai dit, vas-y de toute manière. Voyez-vous, retirez ces bandes et ne les laissez pas sortir. Elles sortirent de toute manière. Il alla dans ces villes et dire, nous n'allons pas soutenir cela. Et tu sais, le diable y alla et dit, je parie que je peux le garder hors de cette ville. Je lui dis, tu ne peux pas le faire. Si je lui dis d'aller, il ira. Je parie qu'il ira. Non, je lui dirai. J'irai là-bas, je dirai. Maintenant, vous, mes agents, rassemblez-vous tous. Vous ne voulez pas de ce fanatisme par ici. Toute cette histoire de guérison divine et de Saint-Esprit, cela a pris fin à des apôtres il y a des années. Vous savez que ce n'est pas bon du tout. Essayons ainsi de les faire rentrer dans ces mauvaises herbes dures et tout cela. Mais tu sais ce qu'il alla pourtant là-bas. Il alla là-bas et il commença à répandre de la luzerne. Et tu sais quoi? Les moutons commencèrent à en manger. Elles ont vu tout gras. Oui, monsieur, ils ont des guérisons et des réunions. Et tu sais que lorsque beaucoup de ces jeunes vinrent et qu'ils virent cela, ils firent alors une large provision de luzerne. C'est tout ce qu'ils ont fait avec ça. C'était si bon qu'ils coururent chez les voisins qui dirent, goûtez ceci. Oui, monsieur, comme ceci. C'est cela. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est pour quiconque le veut. Qu'il vienne. Le voici. Voici ce que la Bible dit. Et ils ont là-bas un moment béni. Ah, c'est mon fils. C'est mon garçon. Eh bien, penses-tu qu'il soit vraiment mûr? Oui, bien sûr, dirait le Saint-Esprit. Je lui ai fait subir des tests, je l'ai éprouvé comme ceci, comme cela, je l'ai rendu malade, je l'ai battu, je l'ai laissé le diable lui faire tout ce qu'il voulait. Il s'est relevé de nouveau. Il s'est relevé. Je l'ai rendu malade, j'ai fait ceci, je l'ai jeté dans un hôpital, je l'ai emmené là-bas, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai retourné sa femme contre lui, j'ai retourné ses voisins contre lui, j'ai tout retourné contre lui. Cela n'a fait aucune différence. Il a dit, qu'il me tue, j'espérerai en lui. J'ai tué sa famille, j'ai fait ceci, j'ai pris cela, j'ai fait tout mon possible. J'ai fait ceci, il y a encore cela, il reste néanmoins de vous. S'il me tue, je le servirai. Il est à moi. Oh, je crois que nous devrions l'appeler quelque part, dans un endroit spécial, en vue de son adoption. Ainsi, quand le Père de l'Ancien Testament comprenait que son fils avait atteint la maturité désirée, que sa préparation à l'adoption était suffisante, qu'il naît des enfants. Ils sont fils à ce moment-là. Mais ils ne seront rien d'autre qu'un enfant, simplement un fils ordinaire, jusqu'à ce qu'ils aient atteint la maturité et prouvé ce qu'ils sont. Alors, il les fait venir. Maintenant, nous en sommes là, mes amis. Êtes-vous prêts? Maintenant, c'est un peu tard, mais que chacun se morde le doigt pour se tenir réveillé. Pensez votre âme, reprenez courage une minute. Voyez-vous, maintenant nous allons placer l'Église. Maintenant, quand l'Église en arrive à ce point, il dit, Manassé, tu appartiens à cet endroit. Ephraïm, à celui-ci. Alors, il est conduit dans un certain endroit. Le père fait asseoir son fils sur une place élevée, et il y a une cérémonie, et tous ces gens les entourent. Alors il dit, je veux que chacun sache que c'est là mon enfant, et que je l'adopte, que j'adopte aujourd'hui mon fils. Je veux que vous sachiez que dès maintenant, son nom, je le revêt d'une robe spéciale, que son nom, sa signature sur l'échec est aussi valable que la mienne. C'est mon enfant, je l'adopte dans ma famille, bien qu'il soit mon fils depuis sa naissance. Depuis qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'était mon fils. Mais maintenant, je vais le placer en position d'autorité. Ce qu'il renvoie sera renvoyé. Ce qu'il engage sera engagé. En vérité, je vous le dis, si vous dites à cet arbre, si vous dites à cette montagne, au toit de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir.
Amen.
Voyez-vous? Vous y êtes, voyez-vous? C'est mon fils. Combien savent que l'adoption, qu'ils adoptaient le fils après qu'il ait prouvé qu'il était un? Tous ceux qui ont lu la Bible savent le placement d'un fils. Or, Dieu a fait la même chose avec son fils. Lorsqu'il prit Jésus sur le mont de la transfiguration, il y fit monter Pierre, Jacques et Jean. Cela fait trois témoins de la terre. Il y avait Jésus, Moïse, Élie et Dieu sur la montagne. Ils étaient debout sur la montagne, et tout à coup, ils regardèrent et virent que Jésus était glorifié devant eux. Est-ce vrai? Combien savent que c'est l'Écriture? Qu'a-t-il fait? Il le revêtit d'une robe d'immortalité. Ils déclarèrent que son vêtement brillait comme le soleil. Est-ce vrai? Et la nuée les enveloppa, et Pierre, Jean et l'autre tombèrent sur leur face. Ils regardèrent, et il y avait là Élie et Moïse qui lui parlaient. Moïse était mort et avait été enterré dans une tombe inconnue pendant 800 ans. Élie était parti en char pour le ciel 500 ans auparavant. Ah, mais il était toujours là. Ils étaient là qui lui parlaient. Voyez-vous? Il avait fait monter Jésus pour les voir, pour voir ce qui en était. Voyez-vous cela? Pour lui montrer des choses, et lui parlèrent. Ils conversèrent avec lui. Et aussitôt que Pierre regarda de nouveau et que la glorification eut quitté Jésus, ils ne virent que Jésus seul. Et une voix sortit de la nuée et dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé et le. Son nom est aussi valable que le mien maintenant. Écoutez-le. » C'est cela. Les fils adoptés ou placés. C'est là que Dieu essaie de conduire l'Église pentecôtiste dans le livre des Éphésiens. Voyez-vous? Comprenez-vous? Nous devons terminer parce qu'il se fait très tard. Voyez-vous? Les enfants commencent à s'endormir. Je voulais arriver à ce verset, mais je ne peux pas le faire, au verset 13. Voyez-vous? La dernière partie, scellée du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous reprendrons cela dimanche. Maintenant, regardez. Ce qui nous fait entrer et comment nous sommes gardés par ceci. Maintenant, pour placer, comment cela se passe-t-il? Vous êtes premièrement né dans le royaume par le Saint-Esprit. Combien savent cela? Bon. Ensuite, vous êtes prédestiné à quoi? À l'adoption. Qu'est-ce que cela? Vous êtes prédestiné au placement. Oh! Sœur Scott, je crois que c'est vous ici. Êtes-vous bien la personne qui était à la maison aujourd'hui? Un enseignement se répand quelque part dans le monde et dans différentes parties du pays. J'en ai beaucoup entendu parler. Ils disent que Jésus est ici sur la terre, marchant dans un corps, et qu'il entre et fait ceci. C'est un mensonge. Son Saint-Esprit est ici, et il essaye de placer son Église dans sa position afin qu'elle soit dans l'ordre. Il la place dans la terre promise afin qu'il puisse entrer, afin que tous les ennemis en soient chassés. Manassé ne peut pas prendre possession de sa terre. Je ne peux pas avoir de service de guérison quand la moitié des, je vais à un endroit, je prêche le baptême au nom de Jésus-Christ, et les frères trinitaires disent, oh, ce n'est qu'un Jésus seul. Je ne peux pas aller là et avoir un service de guérison divine quand la moitié d'entre eux disent que la guérison divine, c'est en ordre, et que certains d'entre eux, tout en reconnaissant les miracles du Seigneur, déclarent, eh bien, je crois que frère Branham est un prophète. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Aussi longtemps que l'Esprit est sur lui et qu'il discerne, il est le serviteur du Seigneur. Mais son enseignement est pourri. Il n'est pas bon du tout. Qui a déjà entendu pareille bêtise? Ou bien c'est de Dieu, ou bien ce n'est pas de Dieu. C'est vrai. C'est soit entièrement de Dieu, soit pas du tout. C'est ainsi. Comment allez-vous le savoir? Manassé ne veut pas garder sa terre. Ephraim ne veut pas garder sa terre. Gad ne veut pas garder sa terre. Benjamin ne veut pas garder sa terre. Ils vont tous courir après les Philistins et sont tous mélangés. Comment allez-vous être placés? Mais nous sommes nés par le Saint-Esprit, nous tous, est-ce vrai? Dans quel but sommes-nous nés? Nous sommes prédestinés. Dès notre naissance, nous sommes prédestinés à l'adoption.
Amen.
Pour être placés dans le corps de Christ. Voyez-vous ce que je veux dire? Qu'est-ce que le corps de Christ? Les uns sont apôtres, les autres sont prophètes, docteur, évangéliste et pasteur. Est-ce vrai? Nous sommes appelés à d'autres en le don des langues, l'interprétation des langues, la sagesse, la connaissance, le don d'opérer des miracles et tous ces différents dons. Et maintenant, que font-ils? Ils pratiquent un peu cela. Quoi? Ils le laissent aller, je ne sais comment. Un se lève, parle en langue, et l'autre continue à parler, à bouger. Le prédicateur sera en train de prêcher, de faire un appel à l'autel, et quelqu'un se lèvera et parlera en langue. Alléluia, gloire à Dieu. S'il arrive que le prédicateur est en loin, continue à prêcher, alors les gens disent, Dieu rétrograde. Voyez-vous, c'est parce qu'ils ne sont pas enseignés. La Bible dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Quand je suis ici debout, ou quand il y a un autre prédicateur sous l'onction de Dieu, peu importe que vous vouliez parler en langue, vous restez tranquille jusqu'à ce que Dieu ait terminé ici. Alors, si vous parlez en langue, cela ne peut pas être une quelconque répétition de l'Écriture, car Dieu a dit, n'utilisez pas de vaines redites, mais c'est un message directement pour quelqu'un. Demandez-moi une fois, montrez-moi une fois où le Saint-Esprit, pendant le discernement, aurait dit à quelqu'un de répéter une Écriture plusieurs fois. Plutôt, il aura dit quelque chose qui n'allait pas chez eux, quelque chose qu'ils avaient fait, ou qu'ils devaient faire, ou quelque chose qui devait arriver, quelque chose comme cela, n'est-ce pas vrai? Ainsi en est-il du parler en langue et de l'interprétation. S'il y en a un dans l'église qui parle en langue et qu'un autre interprète, disons ceci, que frère Neville se lève et qu'il parle en langue, et que ce frère ici donne l'interprétation et dise, dites à cet homme ici, hier, il est sorti et a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et maintenant, le docteur vient de lui déclarer qu'il a le cancer. Allez réparer cette chose, revenez ici et mettez-vous en ordre avec Dieu. Et l'homme dira, vraiment, c'est la vérité. Alors Dieu est avec vous. Mais comment allons-nous faire? Voyez-vous, c'est simplement blop, blop, au petit bonheur. De toute façon, il n'y a pas de placement du tout. Ainsi c'est. Voyez-vous, les Éphésiens essayaient. Voyez-vous, ils ont manqué cela. Voyez-vous, quand ils l'ont manqué, nous sommes prédestinés à être des fils d'adoption. Maintenant, combien comprennent ce que je veux dire? Qui lève la main? L'adoption, nous sommes nés dans l'Esprit de Dieu. Bien sûr, nous recevons le Saint-Esprit, nous crions, « Abba, Père, Alléluia, gloire à Dieu !» C'est vrai, nous sommes des enfants, mais nous ne pouvons arriver nulle part. Nous ne pouvons pas battre les Philistins. Regardez Billy Graham quand il était là-bas, et ce Mohammed lui dit, « Prouvez-le !» Regardez Jaco qui était là-bas, et cet athée, cette Église de Christ, serrant la main à cet athée, lui qui était censé être un chrétien. Il serra la main à un démon comme Joe Lewis, un libre penseur qui maudit Dieu, disant d'abord que Dieu n'existait pas de toute façon, et des choses comme cela. Et l'Église qui s'appelle l'Église de Christ lui serra la main, prenant position contre frère Jaco. Qu'allons-nous tous faire? Et les pentecôtistes, beaucoup d'entre eux sont contre lui. Alors que chaque prédicateur dans le pays aurait dû prendre position à ses côtés et dire, « Oh Dieu, envoie ta puissance !» Voyez-vous, nous en sommes là, nous ne pouvons pas être placés. Ephraim ne veut pas rester. L'un de va ici, nous trouvons Manassé, il va là et dit, « Oh, le Seigneur t'a donné un beau champ de maïs. » Ensuite, il vient ici vers Gad et dit, « Eh bien, maintenant, attends, je suis censé attendre. Je veux aussi prendre du maïs. Alléluia » Voyez-vous, il n'a rien à faire avec du maïs. Prends de l'avoine. L'avoine est un part à cultiver. Ce n'est pas à toi à garder des moutons, alors que tu dois garder du bétail. Dieu veut placer l'Église. Mais tous veulent faire la même chose. Alléluia. Vous ne pouvez rien leur dire à ce sujet. Non, non. Ils ont toujours cette nature de bouc. Mais. Voyez-vous, vous ne pouvez rien leur dire. C'est vrai. Maintenant, cela n'est-il pas vrai? Vous ne pouvez pas placer l'Église. Voyez-vous, l'Église est censée être prédestinée à être des enfants d'adoption.
Amen.
Là où Dieu peut prendre un homme et l'adopter dans la famille et lui donner quelque chose qui, premièrement, éprouvez cela, et voyez si c'est juste. La Bible dit, éprouvez les esprits. Cet homme prétend certaines choses, éprouvez-le, et voyez si c'est juste. Si c'est vrai, allez-y et dites, Seigneur, envoie-nous quelque chose d'autre. Continuez à avancer, voyez-vous, continuez à avancer, et que chaque personne prenne sa place. Alors vous verrez l'Église de Dieu commencer à prendre sa place. C'est alors que les Philistins vont commencer à reculer. Les shorts seront enlevés, les cheveux grandiront, les visages seront lavés. Les cigares ne seront plus là. C'est vrai. Quand l'Église commence à avoir la plénitude de la puissance, quand nous avons un Ananias et Saphira et quelques autres, oui, monsieur, vous verrez que cette sainte Église se tiendra dans sa puissance, placée dans sa position de fils de Dieu, adoptée dans la famille de Dieu, une Église puissante se tenant là dans sa gloire. Oh, c'est pour cela qu'il vient. Voyez-vous combien nous en sommes loin, frère? Nous ne pouvons même pas nous rassembler autour de l'Écriture. Et celui qui ne peut pas voir dans la Bible le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, il est soit aveugle, soit dérangé mentalement. Et c'est là qu'est le grand combat. Je le dirai à quiconque m'apportera un passage de l'Écriture où il est dit que quelqu'un fut baptisé dans un autre nom que celui de Jésus-Christ de la Nouvelle Église. S'il avait été baptisé d'une autre manière, il devait être rebaptisé au nom de Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. Venez me le montrer. Cela n'existe pas. Il n'y a pas de pareil commandement. Quand Jésus dit ici, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit, ni l'un ni l'autre n'est un nom. Pierre, 10 jours plus tard, dit ceci, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et chaque parole dans la Bible, il y en avait là quelques-uns qui avaient été baptisés d'une autre manière par Jean, seulement pour la repentance. Paul dit, vous devez être rebaptisés, vous devez venir de nouveau. Oh, mais nous avons été baptisés par un grand et saint homme, Jean, c'est lui qui baptisa Jésus. Très bien, ceci est l'évangile, ceci est l'Esprit de Dieu qui m'a été révélé. Je suis un apôtre du Seigneur, et si un ange du ciel venait vous annoncer quelque chose d'autre, laissez-moi le lire. La Bible dit, si un ange, Paul dit, quand un ange du ciel annoncerait quelque chose d'autre, qu'il soit un évêque, pape, archevêque, surveillant, quoi qu'il soit, s'il vous annonce quelque chose d'autre que ce que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Il n'y a pas, nous n'avons pas de telles coutumes. Non, monsieur, c'est simplement, cela n'existe pas. Alors voyez-vous, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir cela? Pourquoi les gens ne veulent-ils pas croire cela? Voyez-vous? Quelqu'un vient de dire, Jean, prédestiné, exactement. Pourquoi? Tout ce que le Père me donne, et puis quoi? Viendra à moi. Exactement. Tout ce que le Père me donne, viendra à moi. Très bien. Laissez-moi lire ce verset, et ensuite je vous dirai ce que Paul, les choses... Le message lui-même que j'ai prêché ce soir, voici ce que Paul a dit de la prédestination, du baptême d'eau au nom de Jésus, du baptême du Saint-Esprit, du placement dans l'Église, etc. Voici ce qu'il a dit. Je m'étonne, parlant à ces Galates, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. J'ai honte de vous. En d'autres termes, que vous ayez laissé quelqu'un entrer et vous détourner de l'Évangile pour un autre. Non pas qu'il y ait un autre Évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Renverser le véritable évangile de Christ. Mais observez, maintenant, souvenez-vous que c'est Paul qui contraignit chaque personne qui n'avait pas été baptisée au nom de Jésus-Christ à venir et à être baptisée à nouveau au nom de Jésus-Christ. Combien savent que c'est vrai? Combien savent que c'est Paul qui a dit que ces secrets qui avaient été cachés depuis la fondation du monde lui avaient été révélés, montrant que nous étions prédestinés à l'adoption. C'était Paul. Regardez ici ce qu'il dit. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Il n'a pas dit, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur, mais simplement qu'il soit anathème. Laissez-moi lire le verset suivant. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est vrai. Maintenant, frères et sœurs, si c'était Dieu, l'autre jour, et j'espère que je ne dis pas cela d'une façon irrévérente, qui m'a pris pour voir ce... Maintenant, je deviens excité. Je ne pense pas que je m'excite. Je suis simplement béni en prêchant. Je deviens hors de moi-même, et je vous garde ici jusqu'à ce que je vois que vous êtes somnolent et fatigué. Mais oh, Si vous pouviez seulement savoir comment je vous veux là-bas. Et quand je vais vous redire ceci de nouveau. Quand il m'a dit, aimerais-tu voir ce que sera la fin? Je regarde en arrière et je me vis étendu sur le lit. Assurément, vous me connaissez depuis assez longtemps pour savoir que je vous dis la vérité. Je veux vous demander quelque chose, comme l'a fait Samuel avant d'oindre Saül. Vous avez déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui n'est pas été vrai? Cela a toujours été vrai. Suis-je déjà venu vous réclamer de l'argent ou quelque chose comme cela? Non, monsieur, je ne l'ai jamais fait. Ai-je une foi, fait quelque chose d'autre que de faire de mon mieux pour vous conduire à Christ? Exactement. Maintenant, ils veulent dire que je suis un télépathe. Vous savez, un perceptionniste hypersensible. Bien sûr, ces choses doivent apparaître. La Bible dit que cela arriverait. De même que Jannès et Jambres résistèrent à Moïse. Ils firent presque la même chose que Moïse, jusqu'à ce que cela arrive à l'étalement du feu de chacun. C'est vrai. Mais souvenez-vous que Jannès et Jambres ne pouvaient pas guérir. Ils ne pouvaient pas guérir. Ils pouvaient amener des plaies, mais pas les faire disparaître. Voyez-vous? Bon. Dieu est celui qui guérit. La parole de Dieu reste vraie. J'essaie d'être honnête avec vous. J'essaie de vous dire la vérité. Pendant environ 31 ans, par intermittence, je me suis tenu à cette chair. Et un jour, je partirai peut-être pour aller dans la gloire, loin de cette chair. Il y a une épouse, une fille, un père, un frère, qui sont enterrés tous là-bas, de l'autre côté. Mes chers amis, j'ai regardé leur cercueil et les fleurs qui étaient posées ici. Et je sais qu'un jour, le mien sera aussi, c'est vrai. Mais sincèrement, je vous dis de tout mon cœur que je crois que je vous ai prêché le véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous devriez, chacun d'entre vous, être baptisé au nom de Jésus-Christ et recevoir le baptême du Saint-Esprit, et lorsque vous le ferez, cela vous apportera la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bénignité, la patience et la foi. Pour revenir à l'autre jour, ce qui m'arriva ce matin-là, je ne sais pas. Je ne veux pas encore le dire. Si j'étais ici, dans mon corps, ou j'ai eu simplement une vision, ou que j'ai été enlevé d'ici, près de là-bas, je ne sais pas. Je ne veux pas le dire. La seule chose que je peux dire, c'est que j'avais toujours peur de mourir. Je n'avais pas peur que Jésus ne vienne pas me prendre. Je n'avais pas peur de cela. Je ne le craignais pas. Mais le fait que je pourrais vous rencontrer et n'être qu'un petit nuage dans l'air. Mais maintenant, je sais. Quand j'ai vu ces gens, ils étaient réels. S'il n'y a jamais eu un homme qui représenta la Pentecôte et qui était un véritable apôtre, c'était bien Bosworth. Le pur, direct et véritable évangile. Voyez-vous, c'était Bosworth. Et quand je l'ai tenu dans mes bras et que j'ai crié, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie », il me dit, « Fils, reste dans le ministère. Bats ces jeunes hommes dans la mission à l'étranger, si tu le peux, avant qu'ils y amènent beaucoup de fanatisme. Apporte-leur ce véritable évangile que tu possèdes. Le ministère pour lequel tu es appelé n'a pas encore été, commencé. Tu es un Branham bâton neuf. Tu es jeune, fils. Je lui dis, frère Bosworth, j'ai 48 ans. Il me dit, tu n'as pas encore commencé. Ne laisse pas ces jeunes prédicateurs pentecôtistes arriver là-bas avec leur non-sens pour y empoisonner cela et retourner tous les diplomates et tout le pays la contre avant que tu arrives. Va de l'avant, frère Branham. Va de l'avant avec l'évangile que tu as reçu. Je crois que tu es un apôtre ou un prophète du Seigneur notre Dieu.
Amen.
Je le regardais et je le serrais dans mes bras et je dis, frère Bosworth, je veux vous poser une question. Quel fut le moment le plus heureux de toutes les années pendant lesquelles vous avez prêché? Il me dit, ce moment même, frère Branham. Je lui dis, savez-vous que vous allez mourir? Il me dit, je ne peux pas mourir. Je lui dis, pourquoi dites-vous que ceci est votre temps le plus heureux? Il dit, il y a une petite porte, dit-il. Je suis couché là, avec mon visage tourné vers cette porte. À n'importe quelle minute, celui que j'ai aimé, celui pour lequel j'ai prêché et pris position tous les jours de ma vie, viendra à cette porte pour moi et je partirai avec lui.
Amen.
Je l'ai regardé, je le regardais de la même manière que je l'aurais fait pour Abraham, Isaac ou Jacob, et je lui pris la main. Je lui dis, frère Bosworth, nous croyons tous deux le même Dieu. Nous croyons la même chose. Par la grâce de Dieu, je la prêcherai jusqu'à ce que le dernier souffle de vie quitte mon corps. Je ferai tout mon possible pour être fidèle à Dieu. Je ne ferai pas de compromis avec l'Évangile, de n'importe quel côté que ce soit, à n'importe quel endroit que ce soit. Je resterai aussi fidèle que possible. Frère Bosworth, je vous rencontrerai dans un meilleur pays, où vous ne serez plus vieux, mais jeune. Il me dit, tu y seras, frère Branham, ne t'inquiète pas. Et une heure ou deux heures avant qu'il meure, environ deux mois plus tard, je pensais alors qu'il était en train de mourir. Ma femme entra pour le voir. Il avait toujours pensé beaucoup de bien d'elle, et alors Madame Bosworth, et cela faisait environ deux heures qu'il dormait. Subitement, il se leva, il regarda et sauta de son lit, dit, « Mère, eh bien, je ne t'avais pas vu depuis des années. Papa, frère Jim, mais, dit-il, voyons, vous étiez l'un de mes convertis au Seigneur à Joliet, dans l'Illinois. Il était mort depuis 50 ans. Oui, dit-il, Voici, sœur, un tel. Oui, je vous ai conduit au Seigneur à la réunion de Winnipeg. Oui, voici, sœur, un tel. Je ne vous ai pas vu. Vous êtes venu au Seigneur à tel endroit. Et pendant 2 heures durant, il serra la main à ceux qui l'avaient conduit au Seigneur. Puis il retourna sur son lit et se coucha. Il croisa ses mains et ce fut la fin. Frère Bosworth, est-il entré dans ce pays que Jésus m'a laissé voir l'autre soir? Si c'est le cas, il est là-bas, jeune homme, ce soir. Que Dieu laisse reposer son âme, et puissais-je rester si fidèle que j'entrerai dans ce pays? Et puissais-je être un serviteur de Christ aussi fidèle que lui? Je suis honteux de ma vie. Je suis honteux. Si j'ai péché devant vous, vous me devez de venir me le dire. Voyez-vous, j'essaie de vivre droitement et de faire tout ce que Dieu m'a donné de faire par sa grâce. Voyez-vous? Mais regardez, mes amis, vous me devez cela. Si vous connaissez quelque chose dans ma vie qui n'est pas juste, vous devez venir me le dire. Et de mon côté, regardez, je vous dois de me tenir ici et de vous prêcher le véritable évangile. Je vous dois cela, parce que je m'attends à voir chacun de vos visages, ceux de jeunes gens et jeunes filles, juste de l'autre côté de cette frontière là-bas. Il n'y a qu'une respiration entre l'endroit où vous êtes maintenant et là-bas. Maintenant, c'est vrai, c'est là. Et puisse le Dieu de toute grâce, le Dieu du ciel, pas d'une façon sacrilège, mais dans la révérence, Papa, nous donner de voir ce jour glorieux où nous serons présentés là-bas et aurons de nouveau des corps terrestres, pour que nous puissions manger et boire les raisins et les fruits du pays. Nous construirons des maisons et un autre ne les habitera pas. Ils planteront des vignes et un autre n'en mangera pas, voyez-vous? Alors qu'ici un homme plante une vigne et son fils la prend après lui, puis son propre fils. Mais là-bas, il la plantera et elle lui restera. C'est vrai, nous serons là pour toujours. Et puis c'est dans ce pays, voir chacun de vous. Je réalise que je parle ici même à des prédicateurs trinitaires. Et mes frères, je ne dis pas ceci pour vous blesser. Je suis aussi un trinitaire. Je crois dans la Trinité, les trois attributs de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, mais pas dans trois dieux. Je crois que ce sont trois attributs, absolument. Je fais cela de tout mon cœur, Père, Fils et Saint-Esprit, mais ce ne sont pas trois dieux. Ce sont seulement trois attributs ou trois offices de Dieu. Dieu vécu une fois comme Père, Fils et maintenant comme Saint-Esprit. C'est le même Dieu dans trois offices. Et donc, Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas le nom de Dieu,